Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Chine à Shanghai. On espérait une course sympa, on a eu un rendez-vous incroyable et même historique puisque avec 23 pilotes à l'arrivée, c'est tout simplement le nouveau record dans toute l'histoire de la F1. Pour m'accompagner, lui aussi s'est mis en quelque sorte sur le temps chinois puisqu'il a décidé de se lancer dans le piratage, dans le faux. Car oui, Dino, tu ne nous tromperas pas avec ton chiffre mystère. Tel, j'ai l'impression d'être Lacoste devant un faux polo Lacoste. J'ai très bien percé. Tu vas avoir mes avocats sur le dos, Dino.
Ah ouais.
C'est pas en changeant le nom comme ça, hein. On sait tous très bien qui est-ce que tu as copié. Peux-tu nous présenter notre guest of the week?
Non. 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 Démerde-toi, vas-y.
Bien, cette semaine, nous avons un compagnon de route.
Un habitué.
Nous recevons aujourd'hui autour de la table, qui n'existe pas, mais on le reçoit quand même autour de la table.
Vas-y, vas-y.
Bonjour, Bilo.
Non, pose ta bière.
Bonjour, Bilo.
Ah, bonjour.
Non, il était quelque part, je ne sais pas où, mais il était quelque part.
Il était dans le vide sidéral, perdu.
Bon, c'est bon, j'ai retrouvé ma bière, c'est bon.
Bilo, donc, on peut tout de suite le dire, qui a récupéré le Fantasy F1 sur savf1.fr. Donc, si jamais vous avez envie de vous amuser dans un petit jeu de F1 sympa, vous allez sur savf1.fr, il y a Fantasy F1. Vous pouvez vous inscrire et voilà.
Et donc, dimanche, course, qu'on dit déjà, c'est une des plus belles courses de ces dernières années. Alors, moi, je dirais déjà, c'est allé déjà crescendo. Le début n'a pas été spécialement extraordinaire. Il y a eu le départ, mais après, ça a été très calme. Et puis, c'est après le premier arrêt où les choses se sont un peu emballées, on va dire.
Bah ouais. Ouais, c'était bien. J'ai bien aimé.
D'ailleurs, vous êtes motivés ce soir.
Non, mais moi, j'attends que Bilo parle.
Non, mais je suis content. Je suis content parce que je disais, merde, la Chine, généralement, bon, quand il y a pas la pluie, le Grand Prix de Chine, qui était pas sous la pluie, c'était vraiment pas top.
Ouais.
Et je me suis dit, merde, j'ai peut-être pas choisi la bonne émission, mais là je suis super content parce que là, il va y avoir beaucoup de débats là.
Eh ben on va commencer tout de suite parce que moi j'ai pas aimé ce Grand Prix de Chine.
Vettel n'a pas gagné.
Non, ça n'a aucun rapport avec les pilotes, avec la victoire d'Hamilton ou quoi que ce soit, la mauvaise performance des Ferrari, etc. Ça n'a strictement aucun rapport. C'est juste que j'ai trouvé à un moment donné, à la fin vraiment, déjà on peut quand même dire que depuis 82, c'est le Grand Prix qui a eu le plus de dépassements. L'ancien record, c'était 79 dépassements à Long Beach, donc dans les années 80, je crois. Ça, c'est record sur le sec. Record sous la pluie, c'était à Shanghai l'an dernier, 82. Et selon le site Clip Diapex, le record de Shanghai cette année, c'est 85 dépassements.
Eh ben, bon ben, ça, une minute de silence quand même pour belle performance des pilotes.
Et donc, ça a été une course, moi, vers la fin, j'ai trouvé totalement indigeste. Enfin, honnêtement, tu l'as dit, Cindy, il y a une première phase qui est pas forcément très intéressante. Voilà, moi, je me suis un peu ennuyé au début parce que tout le monde se suivait, tout le monde avait le DRS et personne se doublait, en tout cas dans les 10 premiers. Et il a fallu que les écarts commencent à se faire quelque part dans le peloton pour qu'on voie tout d'un coup des opportunités de dépassement se créer. Et ensuite, comme tu l'as dit, ça a été crescendo, ça a commencé à devenir très intéressant à un moment donné, puis à un moment donné, c'est devenu, dans ma tête, c'est devenu n'importe quoi. C'est-à-dire, je me suis retrouvé devant ma télévision, complètement passif, à plus rien comprendre à ce que j'ai regardé, à même plus penser stratégie, ce que j'adore, c'est penser stratégie. J'étais totalement passif devant ma télé, je pensais même plus stratégie, je pensais même plus à me dire quelle gomme ils ont, etc. J'étais juste en train de regarder la télé, de peur de rater quelque chose. J'avais peur de me lever, de peur de rater quelque chose.
Et pourtant, il y en avait de la stratégie par rapport aux pneus.
C'est ça, et je trouve que tous ces dépassements, et je vais tout de suite mettre un coupable, c'est le DRS, tous ces dépassements inutiles provoqués par le DRS, parce qu'on a vu en course qu'il y avait moyen de dépasser à Shanghai, qui est une piste où on peut dépasser, il y avait moyen de dépasser, de faire des dépassements sans DRS, juste en jouant sur la différence de pneus, tous ces dépassements totalement artificiels créés par le DRS, pour moi étaient totalement superflus, et j'aurais préféré finalement une course où il y avait peut-être 20 dépassements en moins, mais qui aurait été plus digeste. Je me suis retrouvé à un moment donné comme Voilà, c'est comme de la glace au chocolat, quoi. J'aime beaucoup la glace au chocolat, mais si j'en bois 3 litres, enfin si j'en mange 3 litres, voilà, j'en peux plus à la fin, quoi. C'est indigeste, même si c'est le but du jeu. Mais moi, voilà, ce spectacle-là, en tout cas cet excès de spectacle-là, m'a franchement fait chier sur la fin de la course. Alors que, je reconnais, c'était une course très intéressante, spectaculaire et tout. Mais c'est pas ce que j'aime dans la F1. Je veux bien qu'il y ait du spectacle, je veux bien, je suis très content qu'il y ait à nouveau du spectacle. Là, je pense que c'est un petit peu trop. Voilà. Et je m'étais levé du pied droit. Donc, il n'y avait pas de...
Je suis surpris par sa réaction parce que bon, je sais pas moi c'est bien, moi j'aime bien quand il y a le bordel dans les Grands Prix, moi qu'on comprend plus rien. Moi c'est ça que j'aime dans la F1. Que rien comprendre, que tout le monde soit paumé, qu'il y ait plein de dépassements.
Mais sinon, c'était une chouette course, hein. Ça fait plaisir de voir ce truc-là. Mais voilà, moi, j'attends de voir un peu plus tard dans la saison. Je pense que les courses un peu plus tard dans la saison seront un peu moins agitées que celle-là. Et autant j'avais été très sévère envers les mecs qui avaient critiqué la course de Sepang, enfin certaines personnes dans la F1 qui avaient dit qu'on n'y comprenait rien, qu'on n'y voyait rien, etc. Autant j'avais dit ouais, non, mais ils font un peu les cons. Sepang pour moi c'est une course idéale. Autant là, je leur donne raison parce que honnêtement, la course j'y ai plus rien compris. À un moment donné, j'ai totalement quitté la course, ça m'intéressait même plus. Et ça m'a fait chier.
Alors moi, je sais pas, j'ai regardé la course, j'ai pas l'impression non plus que c'était. Moi, je comprenais. Je sais pas. Moi, je comprenais, quoi. Ils se déplaçaient pas non plus tous en même temps.
Mais voir Vettel qui domine tout le vendredi, voir qui domine tout le samedi, qui colle une claque au McLaren encore une fois en qualification, le voir se faire dépasser piteusement parce que il a plus les pneus tendres, etc. parce qu'il a pas les mêmes pneus, et voir Hamilton gagner à la fin. Même si je me dis c'est bien, c'est la stratégie. Vers la fin, ça m'a fait chier, quoi, parce que je me suis dit, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus, il n'y a plus vraiment de sens à la performance. C'est un jeu de survie. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure une déclaration qui disait la Formule 1 aujourd'hui, ça n'est plus du sprint. Je suis d'accord, c'est plus du sprint, c'est devenu de la survie. C'est voilà, c'est très bien qu'on trouve un juste milieu, mais pour moi, ce week-end, j'ai vu ce que je ne voulais pas voir. J'ai vu l'extrême de ce que je craignais avec le DRS. Et avec les Pirelli, je pense que faut soit le DRS, soit les Pirelli, soit mettre un DRS qui serait, comme l'a dit Montagny, je crois, dans dimanche et fin la semaine dernière, on leur donne par exemple 30 occasions d'utiliser, ils l'utilisent 30 fois, pas une de plus, et basta.
Tu dis survie, enfin, on en reparlera, mais Vettel, il perdait pas non plus 10 secondes de tour, quoi. Il arrivait à se défendre, voilà, à un moment donné,
C'est pas ce que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir Vettel se faire déposer par Hamilton. J'ai envie de voir Vettel et Hamilton se battre roue contre roue, comme on a pu voir Hamilton et Alonso à Sepang, comme on a pu voir comment s'appelle Schumacher et Alonso ce week-end. Voilà,
Alonso, ouais.
J'ai été très frustré par le dépassement d'Hamilton quand je vois Malbranche dire ah, magnifique dépassement. Non, j'ai pas envie de dire magnifique dépassement. Il le prend dans une grande courbe à l'intérieur alors que Sébastien Vettel n'a plus d'adhérence. Voilà, j'ai pas envie de me dire ouais chouette, j'ai vu un super dépassement pour la victoire. Les super dépassements, je les ai vus derrière, je les ai pas vus pour la victoire. Et ça m'a frustré.
Oui, c'est vrai que quand on voit le dépassement d'Hamilton, c'est vrai que normalement il ne devait pas dépasser ici, c'est impossible de dépasser là. C'est vrai que je comprends ta frustration de ce côté-là. D'un autre côté, la stratégie. Moi, tu dis que c'est pas normal que que la meilleure voiture soit pas imposée. J'ai envie de dire, enfin, si tu veux que les Red Bull, si tu veux que Vettel gagne toutes les courses.
Après, c'est ça le paradoxe, c'est ce que je dis, c'est que la course, je reconnais parfaitement que la course, elle était superbe. Maintenant, honnêtement, c'est pas le genre de course qui me fait triper, et j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire. Je supporte pas les courses sous la pluie, parce que pour moi, les courses sous la pluie, bah, certes, c'est spectaculaire, mais pour moi, la Formule 1 n'a pas à être un spectacle. Si je veux voir du spectacle, je vais voir de la NASCAR qui est construite pour faire du spectacle, qui dès qu'elle a été construite dès le départ, c'était du spectacle. La F1, c'est une dose de spectacle, mais avant tout, ça reste un sport avec. Bah, je suis désolé de le dire, mais oui, si Vettel doit dominer toute la saison, qu'il domine toute la saison.
Bah, s'il est le meilleur.
Mais c'est ça,
Oui,
c'est
enfin,
ça, c'est parce
mais
que.
d'accord, mais là, il n'a pas été le meilleur. Il a fait une
Ah
mauvaise
non!
stratégie. Voilà.
Ah, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, l'émission est encore longue.
Ah, mais comment il casse l'ambiance sur ce Grand Prix-là?
Mais non, mais il a le droit! Allez, on va revenir sur les 17 avril du passé, en espérant que ce soit moins agité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
On va commencer par le 17 avril 1937 avec l'apparition d'un personnage dans un Texavri.
Bah bip bip.
Non, c'est pas bip bip.
Coyote?
Non, par contre c'est dans le même règne animal que bip bip. Enfin je crois. Enfin si je crois que le règne animal qui bip bip.
Ah Titi?
Non, ce n'est pas Titi.
Et Gros Minet?
Bah non, Gros Minet c'est pas un oiseau.
Je sais pas, mais c'est ta manière de dire ah non, c'est pas Titi. Bah je me dis c'est Gros Minet.
C'est un oiseau.
Oui, mais c'est sa manière. Alors, de dire.
Je vais vous dire le court-métrage dans lequel il est apparu, c'est Porky's Duck. Exactement, c'est l'apparition de Daffy Duck dans Porky's Duck Hunt. Porky. Hein, donc la chasse au canard de Porky. Et donc il chassait Daffy.
Ah d'accord. C'est-à-dire que oui. Daffy Duck n'est pas le héros de
son premier. Oui, ah ouais. En effet.
C'est Porky le héros.
Il est... C'est... Ouais. Le 17 avril 1961, c'est le début de l'invasion ratée de Cuba. Vous savez, la fameuse affaire de la baie des cochons.
Ah, on reste dans le cochon.
Tout à fait.
C'est une thématique, Sidney.
C'est une thématique.
Ah ouais, démerde-toi pour trouver le lien avec le cochon sans le reste.
Écoute, on peut dire que c'est une thématique animale, en élargissant, puisqu'en 1964, Ford présente à la Foire mondiale de New York.
Ah, ben c'est sa Mustang, ça.
La Mustang, eh oui.
Bah oui.
En 1970, un aigle s'est posé, mais sur Terre.
Bah c'est Apollo 13.
70, oui, c'est le retour d'Apollo 13. D'un point de vue animal, on va parler d'une poule. Puisqu'en 1974, c'était la naissance de Victoria Beckham.
Faut quand même se dire que tout à l'heure, quand il nous a dit ça, il avait déjà anticipé qu'il parlerait de poule. En parlant de Victoria
même
Beckham.
Pas. Ah non. Même pas. Eh non, j'ai sorti comme ça.
Tu t'es lancé autre à nous naissance. Annoncer que c'était un thème animalier sans avoir pensé à Victoria Beckham.
Non.
Ah bah moi j'ai dit.
Bon là, je t'avouerai que le lien animal est plus... Non, je l'ai pas vraiment... En 1985, c'était la naissance de Joe Wilfried Tsonga, le tennisman. Ils nous ont quittés un 17 avril. En 1790, c'était le décès de Benjamin Franklin, politicien, inventeur, diplomate américain, qui a fait sa fameuse expérience là avec le cerf-volant et tout sur l'électricité. Il a inventé le paratonnerre. En 2008, c'est un poète qui nous quittait. D'ailleurs, on lui a récemment fait un hommage au Panthéon.
C'est Aimé Césaire.
Aimé Césaire, poète martiniquais. Alors, il faut savoir que le 17 avril, c'est la journée mondiale des luttes paysannes. J'ai pas trouvé plus con, hein, donc désolé.
Oh bah, ça l'est pas mal quand même, hein. Excusez-nous, hein, chers amis paysans qui nous écoutez, mais...
Donc, créé en 1996 au Brésil, suite à la répression d'une manifestation contre le mouvement, en fait, des sans-terres. C'est un grand phénomène en Amérique du Sud, les paysans qui n'ont pas de terre. Et donc, en F1, ce jour-là, nous allons remonter au 17 avril 1994. Ouais. C'était le deuxième Grand Prix de la saison. Et c'était... Alors, est-ce que vous savez quel Grand Prix c'était ? Est-ce que vous avez
Aïda.
Une
idée ? Pacifique.
Exactement, c'était le premier Grand Prix du Pacifique qui a été remporté par Michael Schumacher devant Gerhard Berger et Rubens Barrichello.
Ayrton Senna étant sorti au premier tour, je crois, sur un accrochage avec...
Oui, la photo, il y a une belle photo sur StatF1 où bah, il y a l'accrochage. Donc Grand Prix du Pacifique, donc qui est en fait le deuxième Grand Prix pour le Japon, on a connu ça en Europe, qui n'a connu que deux éditions, une en 94 et une en 95, que Shumi a aussi remporté, donc il a 100% de réussite, c'est le maître d'Aïda.
Encore un record.
Voilà, et donc, je me suis intéressé, d'abord toi Dino, sur quoi je me suis intéressé?
Les Grands Prix qui ont accueilli, enfin, les deuxièmes Grands Prix d'un pays, mais qui n'ont pas eu le nom du pays.
J'aurais pu, mais j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez.
L'esprit aussi tordu que Shinji aurait pensé à ça, effectivement. Ça,
j'aurais pu, tout à fait. Non, mais tu... J'ai pensé au fait que Aïda, il n'y avait eu que deux éditions, ce qui n'est pas énorme.
Ah.
Voilà. Et donc, je suis intéressé à ces grands prix qui, finalement, n'ont pas eu une grande place. Alors, si j'ai mis une limite à 10.
Oh, ça va. Hein.
Voilà, ça, 10, il y a déjà... Voilà, il y a un certain nombre. Déjà, oui, quand tu fais 10 grands prix, voilà. Est-ce que vous avez une idée? Voilà.
Ah bah oui.
Quels sont? Alors, je parle bien des grands prix, hein, pas des circuits. Des grands prix qui n'ont pas connu plus de 10 éditions.
Alors, Grand Prix d'Abu Dhabi, Grand Prix de Singapour, Grand Prix de Corée, Grand Prix d'Inde.
Alors, 1-0, mais oui.
Alors, il y a le Grand Prix du Maroc en 58.
Exactement, en 58.
Il y a le Grand Prix de Pescara.
Exactement, en quelle année?
Pareil, les années 56, 57.
57.
57.
Mais ça compte les Grands Prix que j'ai dit?
Ah bah oui, tout à fait. D'ailleurs, quasiment la moitié des Grands Prix qui n'ont pas connu 10 éditions, vous retrouvez en fait tous les nouveaux Grands Prix des années 2000. Sauf la Malaisie, parce que la Malaisie, on y est 99. Allé depuis 99, et donc c'était déjà la 13e édition cette année. Sinon, en effet, on trouve la Chine, 8e édition, Bahreïn, 7 fois, la Turquie, 6, alors 7 dans 3 semaines, qu'est-ce qu'on trouve? Singapour, 3, Abu Dhabi, Abu Dhabi, 2, la Corée, 1, et puis l'Inde, 1. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est les autres. Donc, t'as dit Maroc, t'as dit Pescara, vous en avez d'autres.
Luxembourg.
Luxembourg, en effet, 2 ans, en 97 et 98, qui était en fait une course au Nürburgring, puisque le Grand Prix d'Europe était à Jerez.
Argentine, il n'y en a pas eu beaucoup.
Ah, et bien l'Argentine, il y en a quand même eu 20.
20?
Ah ouais. Mexique.
Le Mexique, 15 quand même, entre 63 et 92. Attention, hein, c'est bien les Grands Prix, donc faut bien penser aux dénominations des Grands Prix.
Y a pas un truc genre Grand Prix de RDA ou un truc dans le genre?
Non, il n'y a jamais eu de Grand Prix en RDA. Pensez déjà au continent américain. Il y en a eu plein des Grands Prix là-bas.
500 miles d'Indianapolis.
Alors, Indianapolis l'a accueilli 11 fois.
Oui, puis c'est Grand Prix des États-Unis, donc...
Alors, ouais. Ce sont les 500 miles d'Indianapolis. Hein. Ils n'ont jamais porté le nom de Grand Prix des États-Unis.
Ouais, mais avant, il y a eu des Grands Prix aux États-Unis.
Il y a eu des Grands Prix aux États-Unis, après, et justement, au niveau des appellations de Grands Prix.
Ah oui, États-Unis Est et États-Unis Ouest.
Exactement, 8 fois. Alors, c'est vrai que si on prend tous les États-Unis...
Il y a Las Vegas aussi, je crois que c'est pas Las Vegas qui était Grand Prix of Las Vegas.
Qui était Caesars Palace Grand Prix.
Voilà.
Sur le parking de l'hôtel.
Sur le parking en 80...
C'est même pas le nom du patelin, c'est le nom du parking de l'hôtel.
C'est le nom du parking, ouais. Donc, 8 fois, hein, États-Unis Ouest, États-Unis Est, entre 76 et 83-84. Et Las Vegas, 2 fois, 81-82. Sinon, pour le reste, il faut revenir en Europe. Il vous en manque 2.
Autriche, peut-être?
L'Autriche, on a accueilli 26 aussi. Ouais.
Portugal?
Le Portugal, 16.
C'est des pays ou c'est des noms un peu...
Ce sont des pays.
Des noms de pays.
Il y a la Suisse.
La Suède?
La Suisse. Ah bah, bravo! Il y a la Suisse, 6 fois, alors entre 1950 et 82, sachant qu'en fait, c'est entre 50 et 54.
82,
puis en 82, c'était à Dijon, on en a déjà parlé. Et la Suède, 6 fois aussi, entre 73 et 78. Vous avez été bon, je trouve.
Ah ouais, oh, tu veux.
Alors, je remonte un petit niveau. Hein.
Juste pour finir, une petite question facile. On a pris ceux qui ont accueilli le moins de grands prix. C'est lesquels les trois qui ont accueilli le plus de. Qui ont eu le plus de grands prix?
Ah, Italie, enfin Monza, Silverstone, Monaco.
Alors, Monaco fait 4 avec 57 éditions. Tu as raison, Italie et Grande-Bretagne. 61 éditions, ils ont été tous les ans dans le championnat de F1. Et le troisième, c'est le Grand Prix de France. 58 fois.
Ah ouais.
Voilà. Monaco est à égalité avec l'Allemagne avec 57.
Donc Monaco devrait égaler le Grand Prix de France cette année.
Et l'Allemagne aussi.
Je pense qu'on va rester bloqué au chiffre.
Ah là, malheureusement, oui.
C'est mal barré.
Même la Belgique, ils sont à 55. C'est mal barré.
De toute façon, on a l'habitude en sport, hein, en France, de se faire dépasser.
Voilà, c'était tout.
Très intéressant.
Oui, c'était court, mais il y a tellement de choses à dire ce soir que j'avais envie de faire un truc un peu court.
Voilà, faire un truc un peu plus utile la prochaine fois.
Voilà, toi tu veux te faire virer. Parce que Shinji il dit rien, mais lui il vire.
Personne ne se protège.
Alors que moi je laisse et je boxe.
Ah si, c'était bien. C'était très bien.
Voilà, c'était magnifique, je dirais.
Excellent.
N'exagérez pas non plus. Allez, Dino, on va passer aux actualités.
Oui, au podium de l'actu, c'est-à-dire les trois actus, même si on va faire une petite dérogation cette semaine. Les trois actus que vous avez le plus lu sur fanf1.com. Et on va commencer donc avec une actu qui est arrivée troisième. Une actu qui nous expliquait qu'il y avait des KERS français chez 5 équipes, dont la Scuderia Ferrari.
Ce qui peut paraître étonnant, parce qu'on se dit que le KERS a dû être fabriqué par Ferrari. Mais alors, quand on dit KERS français, c'est pas les batteries exactement?
Donc le fournisseur s'appelle Saft, Et ouais. C'est effectivement un spécialiste français de la conception et de la fabrication de batteries. Donc c'est pas vraiment le système en soi, mais
d'accord.
C'est plus le système de batterie.
Non mais c'est bien de voir que malgré tout la France est encore un peu en F1.
Oui voilà.
De toute façon très 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 discrète mais.
Wouhou, la France, où es-tu?
Rappelle-nous les équipes.
C'est... Alors les équipes que je ne dise pas de bêtises, de mémoire, mais vraiment de mémoire, je crois qu'il y a Ferrari, je crois qu'il y a Lotus Grand Prix, et je pense les écuries de satellite de Ferrari, à savoir Sauber, Toro Rosso peut-être, et peut-être Team Lotus, mais je suis pas sûr. Bah non, ils ont pas le Kers, donc je dis une connerie.
Je ne sais trop quoi dire en fait, sur voilà, par le fait que ouais c'est bien, il y a des batteries françaises dans les voitures.
Eh ben c'est pour cette raison que j'ai anticipé. Je me suis dit, comme c'est vrai que la semaine dernière on a eu quand même un podium assez chargé en actualité. Je me suis dit, cette semaine on va prévoir le coup quand même pour provoquer un peu de débat. Je vais être obligé d'en prendre un quatrième. En plus le quatrième c'est vraiment à quelques unités statistiques seulement du troisième. Donc je me suis dit, allez, on va se faire plaisir, on va prendre le troisième, enfin le quatrième. Et le quatrième c'est tout simplement une chronique. C'est la chronique Pit Stop de cette semaine, puisqu'il s'agit de la chronique Pit Stop de Ben, qui s'appelait Dans la cour des grands, qui revenait, donc qui faisait un petit peu le bilan qui fait d'ailleurs, parce que c'est toujours en ligne, qui fait un peu le bilan des quatre rookies de l'année. Voilà, donc c'est comme ça pour voir la discussion de votre bilan personnel, vous, sur les quatre rookies, les déceptions, les satisfactions.
Ouais, bon, Maldonado, voilà.
Bah, disons que c'est surtout qu'il a pas de chance, il a pas la bonne voiture, quoi.
Ouais, non, mais Barrichello non plus, il a pas la bonne voiture, et quand même,
Il fait pareil que Maldonado.
Ouais, oh non, c'est vrai. C'est un tout meilleur, quand même, hein.
Ah non,
ouais, mais est-ce que c'est pas plus à l'expérience?
Dans les qualifs, honnêtement, ils sont tous les deux aussi vases l'un que l'autre. En Malaisie, Maldonado passe pas la Q1, mais c'est pour 2 dixièmes seulement sur Barrichello. Ils sont pas nombreux les mecs qui sont seulement à 2 dixièmes de leur coéquipier sur une qualif en Q1. Voilà, je crois même que ils se qualifient en Australie, ils se qualifient devant Barrichello.
Oui, se loue Barrichello. Donc effectivement, il pouvait pas faire grand chose Barrichello.
Bah voilà, justement Barrichello il est allé dans le gravier alors que Maldonado non.
Oh, c'est bon, hein.
T'as vu comment il retourne le truc?
Ouais, je suis un malade, moi.
Et Maldonado, il a combien de victoires pour l'instant en FA? Hein? Il a rien. Donc c'est Barrichello le meilleur. Là.
Cet argument est pourri. Je suis désolé de le dire, mais cet argument est tout complètement vaseux.
Non, après.
Non, mais c'est vrai que, honnêtement, faut être honnête, on peut pas utiliser, par exemple, la voiture comme excuse pour certains pilotes et ne pas l'utiliser dans le cas de Maldonado. Je vais pas dire que Maldonado, il est bon. Je vais juste dire, voilà, Maldonado, j'attends de voir. Honnêtement, en ce moment, il a une voiture qui lui permet de rien faire. Même Barrichello ne fait pas grand-chose avec. Donc, je vais même pas juger. On les voit pas, les Williams. Je vais attendre avant de juger Maldonado. Voilà.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est Sam Michael qu'on va sans doute ne plus voir non plus bientôt.
Oui. Ah, disons que voilà. Quand un patron de l'écurie commence à dire oui, s'il veut partir,
il peut partir.
Voilà. Vous entendu, toi.
Alors après sur les autres rookies, bon, D'Ambrosio, malheureusement, on n'a pas trop l'occasion de le voir en fait.
Ouais, mais par rapport à Glock, alors est-ce que c'est parce que Glock est totalement,
démotivé,
et peut-être parce que comme il tape quand même beaucoup sur l'équipe en ce moment en disant voilà, faut qu'il mette plus d'argent, etc. Peut-être que l'équipe a plutôt tendance à peut-être se pencher vers D'Ambrosio plutôt que Glock. Voilà, c'est vrai qu'en pour le moment, en ce moment, D'Ambrosio fait quand même de bien meilleur, enfin, et pas aussi ridicule que ce que pouvait être Luca Di Grassi l'an dernier.
Non, clairement pas, non. Alors après, il y a Perez qui varie, on va dire. Il a fait une très bonne première course.
Il descend.
Voilà, la suite est moins.
Disons, faut qu'il commence à arrêter de penser à Ferrari.
Oui.
Non, mais on verra. C'est trop tôt pour parler.
Oui, voilà, c'est.
Voilà. Et puis Di Resta, joli début.
Moi, c'est ma satisfaction. Moi, c'était mon souci du côté des rookies et il confirme.
On en reparlera.
Ce que je trouve vraiment intéressant avec Di Resta, c'est son parcours par rapport au fait qu'il a fait du DTM avant. Parce que c'est vrai que, classiquement, un pilote, en règle générale, il monte dans les filières monoplace. Mais dès qu'il commence à aller sur autre chose que de la monoplace, c'est foutu la F1. C'est souvent ça, hein. Dès qu'il commence à aller sur un autre truc, en activité principale, hein, j'entends vraiment principale. En règle générale, c'est foutu. Et lui, voilà, il est allé en DTM, il a gagné en DTM, et il réussit en F1. Donc, c'est peut-être des filières qu'on croyait peut-être pas forcément ouvertes, qui peuvent peut-être s'ouvrir à l'avenir pour des jeunes pilotes. Ça sera peut-être l'exception qui confirme la règle. Hein.
C'est plutôt une filière de sortie de F1 plutôt qu'une filière d'entrée.
Voilà, tout à fait, oui, oui. En général, oui, quand tu te diriges vers le DTM, c'est que pour toi, la F1, c'est fini, quoi.
Peut-être qu'il faut préciser aussi qu'il est soutenu par Mercedes depuis pas mal d'années. Peut-être pour ça aussi.
Non, mais regarde, Paffett, ça fait des années qu'il est en DTM et il la pilotera jamais, hein, la McLaren.
Paffett, il est arrivé au mauvais moment, où c'est-à-dire où il y avait une écurie Mercedes, c'était McLaren. Donc avoir un troisième baquet chez McLaren, c'était déjà le top. Sauf que depuis, t'as deux écuries Mercedes qui sont apparues, dont une, entre guillemets, une petite écurie, Force India, qui a un baquet qui peut être occupé par un pilote, l'équivalent d'un troisième pilote dans une autre écurie. Il y a sans doute pas à douter que si Force India, enfin s'il y avait une troisième écurie Mercedes il y a 4-5 ans, Paffett aurait fait de la Formule 1 en Grand Prix.
D'ailleurs, on avait parlé de lui à l'époque des Pro Drive et tout
voilà,
ça.
Voilà, il n'y avait tout simplement pas eu l'opportunité. Là, c'est vrai que Di Resta, il y a l'opportunité. Après, oui, effectivement, il est aidé. Maintenant, il est sur le terrain quand même. Enfin, il a beau être aidé. Chez Force India, il n'est pas en terrain conquis, puisque même si Mercedes est fournisseur moteur, ils ne sont entre guillemets que fournisseur moteur. Finalement, le seul atout qu'il a à son avantage, c'est que il a roulé l'an dernier. Il a fait des tests l'an dernier. Il a pu rouler l'an dernier. Donc c'est là quand même où on voit que un débutant, c'est quand même bien qu'il ait du roulage avant et que finalement les faire rouler le vendredi, c'est bien, surtout dans les grosses équipes.
De toute façon, c'est bien connu, tu peux te faire aider pour rentrer en F1, mais pour y rester, il y a que les résultats qui comptent. Hein.
Tu peux te faire aider pour en sortir aussi.
Aussi. c'est un autre débat. Alors sinon, quelle est donc la deuxième ?
Alors la deuxième actu, c'est une actu qui a été... ça a été un petit peu, allez, on va dire, la polémique, entre guillemets, parce que il n'y a pas de polémique en ce moment en Formule 1, mais il y en a une toute petite. C'est la polémique sur les pneus Pirelli après le Grand Prix de Sepang et la plainte de certains pilotes quant au risque des marbles, c'est-à-dire ces petites boules de gomme qui se détachent des pneus sur la piste et qui, pour certains, deviennent de véritables projectiles. C'est un peu le paradoxe devant lequel se trouve la Formule 1, c'est-à-dire que c'est ce que dit Paul Embry, le responsable de chez Pirelli, il dit « les marbles, ils doivent bien aller quelque part ». Et c'est un peu paradoxe.
Si on a des pneus entre guillemets plus friables, forcément ils détruisent plus. Hein.
Voilà, si tu fais quelque chose qui se détruit, forcément il y a des déchets derrière. Maintenant, faut.
Enfin, là, si tu prends la Chine, j'ai trouvé que c'était quand même moins conséquent qu'en Malaisie. En Malaisie, en fin de course, c'était incroyable.
Hein. Parce qu'il faisait très joli.
Il y avait une trajectoire et autour il y avait des marbles.
Il faut imaginer cet été dans certains grands prix, surtout les grands prix européens, où il y aura eu deux courses de GP2 ainsi que les qualifs, etc. Les GP2 utilisant exactement les mêmes pneus que la Formule 1, ça risque de poser un peu plus problème. Ouais. On risque sans doute d'avoir autant de marbles, peut-être même parfois plus par les conditions très chaudes. Je pense notamment à un Grand Prix qui généralement est assez chaud, la Hongrie, et en plus où il n'y a pas vraiment de trajectoire, ce qui fait que les mecs vont forcément être obligés de rouler sur les marbles pour essayer de dépasser. Ça pourrait être un problème dans ce genre de conditions.
Ouais, mais c'est vrai que c'est assez incroyable parce que en Malaisie, on avait une piste blanche, la trajectoire blanche, et tout autour c'était noir.
Ouais, puis on les voit en plus.
Puis on voyait vraiment les bouts. C'est pas des petits bouts là. Non, c'était des gros bouts qu'on voyait partout. Hein.
C'est ça aussi qui est intéressant cette année, c'est que finalement à chaque Grand Prix, il y a une vraie différence. On voit bien, il y a sur les pneus avec les trois mêmes sets de pneus, les trois mêmes configurations pneumatiques, on a eu quand même trois courses assez différentes.
Et alors sinon, quelle est la première actu?
Alors là, tous les fans de McLaren et de Red Bull vont être contents, puisqu'on en est à l'épisode 17 de leur.
Encore. Voilà.
Puisque c'est encore McLaren qui conteste les monoplaces de Red Bull, en tout cas la légalité des monoplaces de Red Bull. Alors c'est sans doute encore l'histoire des ailerons.
De l'aileron.
Évidemment. Alors c'est vrai que j'ai regardé dimanche F1. C'est vrai que les vidéos comparatives sont... Ils ont fait une vidéo comparative.
Ah ouais, c'est...
Sur la ligne droite en montrant sur la partie gauche de l'écran la Mercedes, la McLaren, et sur la partie droite la Red Bull, avec une petite ligne pour montrer le niveau où ça devrait être, etc. Et c'est vrai qu'on voit que, comme par hasard, quand ça commence à accélérer dans la ligne droite, l'aileron de la Red Bull se baisse. Et puis, quand ça arrive au freinage, il remonte.
C'est une merveille, ce truc. C'est une merveille. Alors que l'aileron McLaren, il reste droit. Non, mais écoute, cet aileron passe les tests de la FIA, il est donc légal. Point.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Christian Horner, je crois. Il a dit on passe pas le test McLaren, on passe le test FIA. Hein, donc,
Oui, oui, c'est ça, mais il a tout à fait raison. Voilà, on passe le test, c'est légal, voilà, c'est bon. C'est pas
parce de toute façon, que quand McLaren aura un aileron comparable, ils gueuleront plus.
Ils trouvent le moyen d'améliorer leur voiture au lieu de critiquer celle des autres, quoi.
Donc voilà, c'est un jeu qu'on connaît en F1.
À la limite, on aurait vu les ailerons là, on aurait découvert ces ailerons là à Melbourne. Ça fait quand même depuis quasiment le début de l'année dernière.
Oui,
on nous parle
plus,
de la flexibilité des ailerons, que les tests ont été revus, etc. J'arrive pas à comprendre que McLaren, Ferrari et les autres n'aient pas cherché dès cette année à se dire voilà, faut avoir diffuseur soufflé, faut avoir l'aileron avant qui se plie en ligne droite, quoi. C'est pas compréhensible qu'ils aient pas inclus cette donnée là dans le cahier des charges de leur voiture, quoi.
Et visiblement la FIA n'arrive pas. Comment exprimer l'interdiction de la flexibilité, sachant que de toute façon les tests ne vont pas se faire à 250 km/h?
Non mais c'est New Way, tu peux lui faire ce que tu veux, tu peux dire oui, toute voiture étant sponsorisée par Red Bull ne pourra courir qu'avec trois roues, il trouvera bien le moyen de la faire rouler, de la faire aller plus vite que les autres. On a toujours quelque chose.
On va passer aux citations, messieurs.
Bien sûr. Alors,
avez-vous des citations?
C'était de bien belles news, et cette semaine, je le pense vraiment. Allez, les citations. Je commence. C'est une citation qui n'est pas de quelqu'un qui fait de la F1.
Oh.
Non. C'est une citation de monsieur Nonce Paolini. Alors, qui est Nonce Paolini?
Ah, c'est le président des programmes de TF1. C'est le président des programmes ou le PDG de TF1.
C'est le PDG de TF1. Hein. Alors, on en a déjà évoqué le fait que TF1 était visiblement pas trop chaud pour continuer la F1 après 2012. Hein. Faut savoir que le contrat arrive à échéance fin 2012. Et alors, il aurait dit en fin de semaine dernière, devant les actionnaires de TF1, donc quand il le dit aux actionnaires, c'est pas anodin, forcément. On verra si on renouvelle le contrat, mais en tout cas, pour l'instant, les chiffres de la Formule 1 ont été en décroissance constante depuis plusieurs années. Il faut bien reconnaître que les Grands Prix sont de moins en moins passionnants. Les chiffres ne sont plus à la hauteur de nos espérances et du contrat qui a été signé à l'époque. Alors, on peut dire deux choses. La première, c'est que, bizarrement, quasiment tous les lundis matins, TF1 se vante des résultats de la F1, même quand c'est 2-3 millions.
Ouais.
C'est créneau horaire. Donc bon, ils gueulent, mais bon, ils sont quand même plutôt bien contents. Et puis forcément, la petite phrase qui nous fait tous un peu titiller depuis dimanche, c'est donc les Grands Prix sont de moins en moins passionnants. Bah, j'ai envie de dire, regarde la F1.
Oui, mais voilà, surtout ce mec, il connaît rien à la F1, il a jamais vu de Grand Prix. Il regarde juste les chiffres de l'audience.
C'est malheureusement le cas de beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, les Grands Prix sont de moins en moins passionnants », mais en même temps, ils les regardent pas.
Puis j'ai envie de dire que quand on regarde les échecs successifs des programmes de TF1, je pense à Carré VIP, et là, on a appris, par exemple, qu'ils avaient dû remanier la famille d'explorateurs, là, parce que ça va se terminer dans les prochaines semaines, parce que ça fait des fours d'audience et qu'il faut le finir en urgence. Voilà, on voit bien qu'en ce moment, chez TF1, en tout cas, c'est un petit peu, on écope ce qu'il y a dans le bateau en évitant la noyade, quoi, donc...
Alors que c'est vrai que la F1, c'est environ 3 millions, hein, c'est 3 millions assurés, sur des créneaux quand même le dimanche,
où il y a pas vraiment concurrentiel.
Voilà, c'est pas vraiment concurrentiel. Alors par contre, c'est vrai que ça leur coûte 40 millions, hein, et apparemment le spot de pub coûterait dans les 30 000 euros, et donc c'est pas assez visiblement pour TF1.
Franchement, c'est n'importe quoi, je suis sûr que la F1, c'est le truc qui cartonne le plus sur TF1, quoi.
Non.
Franchement,
sur ces créneaux-là, oui.
Sur ce créneau-là, oui, mais
le dimanche, oui, bien sûr, 3 millions par rapport sur d'autres créneaux horaires, c'est faible. Même par rapport à du foot, c'est faible.
Dans la tête de TF1, tu mets les experts à la place, ça fait 4 millions.
Ah, mais c'est tout à fait ça.
Et ça leur coûte pas cher. C'est-à-dire, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est pas, dans la tête de TF1, c'est pas seulement ce que ça leur rapporte, c'est aussi ce que ça leur coûte. C'est la F1,
ah, bah oui.
40 millions dans leur tête, faut que ça leur en rapporte 60. Sauf qu'apparemment, ça leur en rapporte même pas 40 millions, c'est-à-dire qu'ils rentrent même pas dans leurs frais. Voilà, et pourtant, ils font le strict minimum. Alors que, par exemple, acheter les experts ou une série américaine qui fera peut-être les mêmes scores, ou peut-être moins bons, ils auront les mêmes tarifs de pub, et la série leur coûtera moins cher et leur rapportera plus. Donc c'est le seul calcul mathématique qu'ils font. Hein.
Alors sinon, forcément, bon, si TF1 arrête, c'est qui reprend? Et comme d'habitude, ben, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent, hein. Principalement M6 et Canal. Donc M6 qui est vrai qu'il y a la possibilité d'utiliser ces deux canaux, M6 et W9. Ça, ça peut être intéressant. Et alors, sur Canal, c'est vrai que le gros le problème par rapport à Canal, c'est que c'est une chaîne payante. Ouais, sinon, il y a une autre possibilité liée à Canal. Alors, c'est par rapport à la, justement à la TNT. Alors, c'est lié à un autre dossier, hein, mais là, c'est vraiment de l'hypothèse.
Un Canal 20.
Voilà, c'est le fameux projet Canal 20. Parce que faut rappeler, puisque actuellement, en France, on est en train de passer de la diffusion analogique à la diffusion numérique. Je le précise notamment pour peut-être pour nos auditeurs francophones, mais pas forcément français. Donc, basculement sur de la télévision numérique sur tout le pays, sur toute la France métropolitaine.
Jusqu'en novembre prochain, je crois.
Jusqu'en novembre, voilà. Et donc, théoriquement, il était prévu, puisque le marché publicitaire, forcément, va être plus éclaté, puisque les gens vont avoir accès à plus de chaînes, il était prévu des chaînes bonus au groupe privé. Donc, une chaîne bonus pour TF1, une chaîne pour M6 et une chaîne pour Canal+. Canal+, qui a toujours fait de la chaîne payante, hein, que ce soit la Canal+ historique ou Canal satellite. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines de ça, ils ont annoncé que dans le cadre justement de ce Canal bonus, ils allaient lancer une chaîne gratuite. Ce qui a d'ailleurs fait beaucoup peur à leurs adversaires, parce que une chaîne gratuite, mais avec les moyens de Canal+, ça peut donner quelque chose de pas mal. Mais la F1, ça pourrait être un beau produit d'appel. Et ça serait une chaîne gratuite. Voilà, c'était à peu près tout.
La F1 peut être sauvée, alors.
Oui, de toute façon, il y aura un diffuseur, et puis on peut penser quand même qu'il y aura un diffuseur gratuit. Parce que, on le sait, même Bernie, il veut pas qu'il y ait la F1 que sur des bouquets payants. Alors, Dino, Bilo?
Je vais laisser Bilo, parce que moi, c'est une petite citation toute pourrie qui ira très bien pour introduire la qualif.
Ah oui, alors, donc ma citation, c'est Sébastien Bémy qui dit « Je crois que nous allons devoir nous expliquer donc par rapport à son coéquipier. »
C'est pour l'Australie, ça, non?
Ouais, enfin, ça continue quand même. Oui, bah, oui,
oui, ça oui, continue, oui. Oui.
Mais je crois qu'il y a eu un, je crois qu'il y a eu un accrochage ou un truc dans le genre, enfin une.
Voilà, il y a eu un accrochage et puis après l'Australie, c'est alors je sais plus dans quel sens. Je crois que c'est Alguer Suari qui a dit oui, c'est Buemi qui a touché Edfeld. Venant de son coéquipier, quoi.
Alors c'est sûrement vrai. Bon, je dérive un peu sur l'Australie, c'est sûrement vrai. En même temps, il a tout à fait le droit de se défendre. Là, c'est pas le problème, c'est normal. Il se défend, c'est pas lui qui a fait la faute. Sauf qu'après, Gersori, il en a rajouté une couche en disant que il était tout à fait prêt pour aller chez Red Bull à la place de Weber en 2012. Alors déjà, rien ne dit que Weber va partir de chez Red Bull avant 2012.
Oui. D'ailleurs, il a dit qu'il voulait rester. Hein.
Ouais. Voilà. Et je pense que s'il nous fait encore une course comme en Chine, Red Bull pourrait le garder. Deuxièmement, Gersori, il est loin d'être prioritaire sur le remplacement possible de Weber.
Non, parce que oui, tout à fait.
Parce que le petit Gersori, il nous a quand même dit que il était aussi rapide que Buemi, aussi fort physiquement, et que c'était la maturité qui allait faire la différence, et qu'à ce petit jeu-là, ce serait lui, d'après lui, hein, qui avait un gros avantage sur Buemi. Alors, d'après ce que j'ai vu depuis ses débuts en F1, je me dis, il y a un problème. Il n'a pas dû se regarder souvent dans un miroir. Parce que la maturité, quand c'est lui qui en parle, quand même, ça fait plutôt rire. Parce que venir critiquer déjà son coéquipier, « Ah, mais non, c'est pas moi, c'est Buemi !» Et qui ensuite dire, « Oui, mais je suis meilleur que Buemi, alors que depuis le début de saison, pour connaître que Buemi est bien meilleur que lui, voilà, c'est pas un parti pris, mais voilà, faut qu'il se remette un peu à sa place. Il a fait une bonne saison 2010, mais faut pas qu'il se relâche, quoi. Il est en train de nous refaire une saison 2009, peut-être. Hein, on dit que les pilotes de F1 tous les pilotes de F1 ont un ego surdimensionné. C'est pas vrai. Il y en a quelques-uns, quand même, qui restent à leur place, qui savent ce qu'ils font et qui sont humbles, et je pense que l'humilité, il y en a besoin quand même.
Non, mais c'est vrai que c'est le grand amour chez Toro en ce moment.
Parce qu'il y a Ricardo qui met la pression, hein, c'est pour ça.
Ah bah oui, tout à fait. Hein. Non, mais va falloir quand même que ça, que qu'il crève l'abcès quand même entre Toronto, parce que s'il commence déjà là comme ça, alors ça fait que 3 courses, hein, les gars. Hein.
Moi, j'aurais juste à dire, c'est qu'il y a
ça
la
fait que 3 courses.
Il y a la Turquie qui arrive, c'est un bon endroit.
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est le bon moment pour les pilotes sponsorisés par Red Bull pour régler leur compte.
Alors, dis-nous, quelle est ta petite citation?
Alors, moi, c'est une citation que vous pourrez découvrir un peu plus en longueur, vous avez sans doute même déjà découvert si l'article est fini. Une citation de David Coulthard, où il n'est pas forcément très très gentil avec le circuit, globalement avec le Grand Prix de Chine, enfin très tendre, et où il dit donc, par exemple, pour parler de des installations, il dit cette phrase qui moi m'a beaucoup fait rire. Il dit qu'il faut un bus pour aller d'un bout à l'autre du paddock. Tellement c'est grand. Et il dit aussi que tellement que c'est grand que Martin Brundle, avec qui il commente pour la BBC, que Martin Brundle, qui traditionnellement fait les commentaires sur la grille, un peu comme nos amis de TF1 quand ils sont en Europe, bah là Martin Brundle ne pourra pas le faire parce qu'il pourra pas rejoindre à temps pour le début de la course la loge média pour commenter le début de la course. Donc voilà. Donc voilà, c'est un petit peu du teasing pour un article que vous verrez sans doute mercredi, donc hier. Que vous avez vu hier. Donc je fais du teasing pour un article que vous avez déjà lu normalement.
C'est pour ça que tu disais que ça allait être une transition, parce qu'on parle du Grand Prix.
Voilà, on parle du Grand Prix, donc ça ramène un peu vers.
Ah oui.
Je te donne un coup de main, c'est dur.
On va passer à la course.
Ouais.
Et on va passer par le premier grand moment de ce week-end, qui a été quand même
la place du con.
La place du con, et je citerai, je crois, c'est Fab. Je crois que c'est Fab qui a fait la remarque pendant les qualifs.
Pour une place du coup.
C'est vrai.
Pour le coup.
C'est vrai que cette semaine, c'est une place de luxe.
Ouais. Ah.
Même si on a eu des grands noms, hein, déjà, hein, dans la place du coup. Faut le dire, hein, déjà l'an dernier.
Oui.
Mais là, c'est vrai. On a une belle place du con cette semaine avec Mark Webber, 18e.
Oui,
qui nous a tout simplement expliqué que il pensait que ça passerait et c'est pas passé. Avec les pneus durs, je précise.
Mais globalement, j'ai peut-être envie de dire, il y a peut-être un petit excès de confiance chez Red Bull quand on voit la stratégie qui est de continuer en dur en Q2 alors que c'est assez tangent et alors qu'en plus on est en Q1, voilà, c'est assez tangent de continuer en dur, c'est un peu présomptueux.
Ouais, mais tu vois, venant de Red Bull, ça me choque pas.
Oui, mais c'est ça le truc, c'est que, et quand on voit en course la stratégie de Vettel, et que derrière, quand on entend le discours de Vettel, ils disent, oui, voilà, on a essayé des trucs, sous-entendant, en sachant que, bon, au pire, on perdrait 8 points, et puis ce serait bon, t'as quand même un petit peu tendance à vouloir leur dire... assurez quand même les résultats, vous avez la voiture pour être premier, ne faites pas les mêmes erreurs que par le passé, en étant cette fois-ci trop présomptueux, vous avez la fiabilité, vous avez la voiture pour, ne gâchez pas vos cartouches. Là c'est vrai que on voit Weber, ça fait quand même 3 qualifs, enfin en tout cas 3 grands prix où il passe à côté à un moment donné ou à un autre, là c'est honnêtement la stratégie était un peu présomptueuse.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Donc mon drive-thru, ça va être un petit drive-thru qui va être finalement assez simple, puisqu'il va prolonger ce que tu viens de dire, Dino, et même je suis plutôt d'accord avec toi. C'est sur globalement l'arrogance des équipes, notamment en qualif. Alors même si, je t'avouerai que pour Mark Webber, j'ai envie de dire, il a une Red Bull. Mais c'est vrai que d'autres équipes n'ont pas une Red Bull et aussi sont arrogants.
Oh non, ils ont
Eh ben, fallait réagir plus tôt.
Oui, mais c'était sur Renault, moi, que je voulais le faire.
Eh ben, t'en trouves un autre, c'est trop tard.
Ah non, je t'avais préparé.
Et en effet, Renault, mais il n'y a pas que Renault. Je pourrais aussi parler de Ferrari. Ferrari qui, quand même, joue avec le feu.
En quoi? Alors,
attends, eux aussi, ils font des qualifs sur un tour. Hein.
Oui, mais en Q3. Ils ont plus de pneus, ils font ça en Q3. Compare pas des mecs qui font ça en Q3 avec des mecs qui font ça en Q1 ou en Q2.
Non, mais c'est pas que sur la Chine, c'est sur le début de saison.
Mais à chaque fois, Ferrari, ils font ça qu'en Q3, ils se disent, parce qu'ils ont bouffé tout leur pneu tendre avant. S'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à Ferrari, c'est justement d'économiser leurs pneus.
Les équipes sont peu prudentes par rapport à ça. Elles vont se faire avoir. Tu vas voir que Ferrari va se faire avoir à faire ça.
Mais Ferrari se font déjà avoir. Il y a qu'à regarder la Q3 à chaque fois.
D'accord.
Ils sont trop prudents, c'est ça le problème.
Voilà. Mais même Renault, voilà, Renault, il pouvait pas le faire sortir plus tôt, Hedfeld.
Bah, c'est une bêtise sans nom de ne sortir à Hedfeld que tardivement en Q2, alors que déjà, il s'est gaufré deux fois, en essai libre.
Oui.
Qu'il a perdu un temps de roulage énorme. Voilà, c'est pas une écurie, ils ont pas le luxe d'être en confiance, comme tu le dis. Autant Weber, ça se comprend, il a une Red Bull, le week-end s'est bien passé, et puis il est sur sa stratégie, comme depuis le début de saison, de garder plus de pneus pour la Q3. Oui. Donc voilà, et puis ça qu'il a une voiture quand même qui domine les autres, donc il se dit ça peut passer. Autant là, les Lotus, surtout à Hedfeld, quoi, à un moment donné, ça devrait même être à Hedfeld de dire, écoutez, j'y vais les mecs, quoi, c'est pas possible. J'ai pas suffisamment roulé, on n'est pas sûr, on peut pas être aussi présomptueux que ça.
Donc voilà, c'était, j'ai dit, c'était un petit drive-through. Voilà. Même si Bilo fait la gueule, mais.
Un petit drive-through qui fait bien chier Bilo.
Il fait bien chier Bilo.
Voilà, je fais comment pour trouver un drive-through, là?
Eh ben, tu réfléchis vite.
Je prolonge ce que dit Shinji.
Non. Mais tu seras quand même obligé de trouver un autre drive-through.
Tu peux. Oui, mais voilà.
Ah, tu peux prolonger, par contre, oui. Droit.
Quand même. Je prolonge quand même, c'est. D'ailleurs, je l'ai dit sur le site de FanF1. Le truc, c'est que Red Bull et McLaren, pour l'instant, ils sont toujours quasi sûrs d'aller en Q3. Renault, elle est dans un paquet avec Ferrari, Mercedes, Sauber, Toro Rosso, peut-être même Force India.
Yeah,
et
ouais.
ça fait quand même beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à la Q3 à la régulière sur des petites choses comme ça. Et pour cela, il faut que, ils peuvent pas se permettre ce qu'ils ont fait parce qu'il y a trop de prétendants à la Q3. Et c'est stupide, et je l'ai vu en qualif, je me disais, punaise, mais pourvu, ils ont pas arrêté de le répéter, les commentateurs, imaginez s'il y a un drapeau rouge, Petrov et Hedfeld, ils sont bien ennuyés, il y a eu un drapeau rouge, et Hedfeld a été bien ennuyé.
Voilà.
J'espère que ça leur servira de leçon, parce que là, je veux pas tirer de plan sur la comète, mais ils sont en train de perdre gros au championnat, ils peuvent faire vraiment quelque chose de bien au championnat. Ils perdent tout, mais sur une erreur incroyable. Ils pouvaient se battre pour la victoire. Et ils font une course de merde à cause de ça.
Alors, à noter qu'au niveau du classement, donc, HRT et Virgin se sont qualifiés, parce que Virgin, il y avait des doutes. On parlait même de la possibilité que HRT passe devant Virgin, notamment le vendredi. Mais bon.
Bah, faut dire aussi que Glock a été immobilisé au garage quasiment une bonne partie de la journée. Donc, ils n'ont pas forcément pu beaucoup rouler et cumuler de l'expérience, quoi.
Ouais. Sinon, au niveau de la Q2, alors, Mister Eleven nous a pas fait une troisième.
C'est Mister 14 maintenant.
C'est Mister 14 cette semaine.
Bientôt, ce sera Mister 20.
Les Sauber qui ne sont pas passés en Q3, aucune des deux. C'est vrai qu'on avait eu des Sauber plutôt pas mal.
La première cette semaine.
Et par contre, les Torosso qui font la Q3, les deux.
Mais oui, c'est encore une fois, c'est le drapeau rouge qui fout un peu tout en l'air, parce que je crois qu'il y a quasiment personne qui n'améliore dans les deux dernières minutes après le drapeau rouge.
À la régulière, c'est pas la qualif qui.
Ah non, ouais.
Le drapeau rouge a tout conditionné. C'était incroyable de voir Rosberg, par exemple. Il a quand même réussi à se qualifier, mais Rosberg qui fait tout son tour dans les échappements d'une voiture, en fait.
Et Rosberg parce que Fernando, il aurait pu se dire, bon, Weber est plus là, je vais pouvoir mettre quatrième.
Eh ben non! Fernando, on va l'appeler Mister 5.
Mister...
Oui.
Depuis le début, il est abonné aux 5e place.
Encore une fois, on a les deux pilotes McLaren derrière Red Bull, mais avec Button 2e.
Tu as dit qui, Shinji?
McLaren.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Excuse-moi de t'interrompre, Shinji.
Tout ça pour faire répéter le mot McLaren.
Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai envie de mettre un drive-thru. Mais je ne mettrai pas à McLaren, je le mettrai à Hugo Boss.
Mais c'est ça.
Parce que Hugo Boss m'a fait vivre un moment assez terrible ce week-end, puisque Hugo Boss a décidé, parce que je crois que c'est le 30e anniversaire d'Hugo Boss, enfin je sais plus quoi, il y a un anniversaire à fêter, et ils ont décidé cette année de faire un concours avec de proposer aux gens de dessiner les combinaisons que porteront les pilotes McLaren tout au long de la saison en qualification seulement. D'accord?
Alors, quali est vendredi, et il faut noter que ce sont les gens du pays.
Oui.
Donc là, c'était les Chinois qui ont dessiné.
Voilà.
Donc c'est-à-dire que les Français, nous,
Walou.
Que dalle.
Ouais. Alors je vous conseille d'ores et déjà d'aller voir ce qui nous attend dans les prochaines courses, parce que notamment le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est relativement à chier. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est surtout, c'est que, est-ce que vous vous rappelez la couleur des combinaisons ce week-end?
Ah oui, non, mais je m'en rappelle très bien. En même temps, j'ai envie de dire, McLaren a déjà porté ses couleurs.
Oui.
Il y a bien longtemps.
Mais, disons que moi, faut pas me montrer un pilote en rouge. Parce que j'ai ce phénomène, quand je vois un pilote portant une combinaison rouge, je deviens amoureux. Voilà. Et bizarrement, ce week-end, quand j'ai vu Lewis en rouge, je l'ai trouvé très mignon. Je lui ai dit, tiens, ça lui va bien, le rouge. Voilà.
Ça lui va bien, le rouge.
Et voilà. Parce que faut quand même rappeler que quand Kimi est arrivé, bon, j'étais pas forcément pas fan de Kimi, mais voilà, j'aimais bien Kimi, mais sans plus, hein, j'étais un fan de Schumi. Je l'ai vu dans je crois que c'était la Fiat Punto ou la Fiat 500, descendre avec son beau blouson rouge, son petit pantalon de ski rouge. Je me suis dit, ah, oh, Kimi Räikkönen, t'es trop beau. Après, l'année dernière, j'ai vu Fernando descendre de son hélicoptère, pareil, habillé en rouge, à Madonna di Campiglio. Je me suis dit, ah, oh, Fernando, t'es trop beau, alors que jusque-là, je pouvais pas le piffrer. Et là, ce week-end, on m'a proposé de voir Lewis Hamilton en rouge. Et je me suis dit, ouais, Lewis, t'es trop beau.
Attends, Jensen, ça t'a pas fait le même effet.
Mais je l'ai pas vu en rouge, Jensen. Je l'ai vu en rouge sur le
il
podium.
Juste à côté.
Mais non, mais parce que là où je l'ai vu, Lewis, c'est, je l'ai vu en photo, et j'ai vu Lewis dans son garage, tout seul, en rouge. Et là, vraiment, j'ai eu le coup de foudre. Voilà.
Et dis donc, ton drive-thru, ça nous vaut un petit peu ton drive-thru contre le podium de Monaco. C'est un petit peu.
Non, c'est pas pareil, parce que là, vraiment, j'en veux à Hugo Boss de m'avoir laissé entrevoir ce que pourrait donner Lewis Hamilton chez Ferrari avec une combinaison rouge. Voilà. J'ai dit, viens de voir la Grande-Bretagne.
Je viens de voir déjà la Turquie. Je vois l'Espagne.
L'Espagne, c'est très coloré.
Franchement, tu trouves que celui de Chine était moche.
Ah non, j'ai pas dit que la Chine était, non, je dis pas que, au contraire, c'était très beau. Alors, moi,
ah oui,
je voudrais
tu as raison de dire que c'était très beau.
C'était très beau, honnêtement.
Oh!
Et il vient de voir la Grande-Bretagne.
Non, mais je viens de voir la Grande-Bretagne, je viens de voir la Turquie, c'est... C'est bariolé, on va dire.
Donc, quand vous allez sur le site d'Hugo Boss, hein, c'est tout en bas du site, vous avez les pilotes McLaren, et c'est vrai qu'il y a des couleurs qui pètent. Bon, voilà. Donc, c'était mon petit drive through contre Hugo Boss pour m'avoir donné un aperçu agréable de Lewis. Surtout qu'en plus, j'ai beaucoup aimé Lewis sur le podium. Donc voilà, c'était un peu mon week-end fan de Lewis. Voilà, c'est désolé.
Juste pour une couleur.
Je te jure, le rouge, ça transforme un homme. J'y peux rien. C'est
à noter. Donc lui n'a pas encore porté de rouge, mais peut-être qu'un jour. Hein. Donc Sébastien Vettel, Paul en 1:33,706.
Putain, si Hugo Boss pouvait devenir. Oh, le Canada, c'est horrible. Oh, le Canada, c'est horrible. J'avais oublié le Canada.
Non, mais t'as vu Valence, on dirait il y a des traces de pneus.
Ils ont... Oui, ça ils y ont pas pensé.
Oh mon Dieu, ça va être fun. Hein. Moi, franchement, je découvre ça. Je me dis, ça va être super drôle toute l'année. Ça me donne envie de voir les qualifs. Hein. Donc Vettel qui fait une pole avec une moyenne de 209 km/417. C'est sa 18e pole, la 23e pour Red Bull et la 178e pour Renault en tant que motoriste. On passe au top 10.
Et d'abord à ceux qui ne sont pas dans le top 10. Alors, ne sont pas dans le top 10. Et même, je dirais qu'il y en a un qui finit dernier en 24e position, qui ne marque pas du tout de points. Mmh. Ah, si quand même, vous avez été sage cette semaine, vous n'avez voté pour aucun troisième pilote, c'est bien. Vous avez écouté, vous avez suivi la règle, c'est très bien, c'est sympa.
Je précise aussi, oui, que Glock n'est pas en troisième pilote, vous n'avez pas voté pour lui.
Voilà. Donc Glock qui est 24e, voilà, Liuzzi 23e avec un point. Alors pour information, hein, on va vous donner un petit comparatif. Le leader, écoutez bien ce chiffre, c'est très important.
Ah non, faut donner un à peu près, mais on peut pas donner les chiffres.
Le leader est au même niveau que la dernière fois, c'est-à-dire entre 1400 et 1500 points, d'accord? pour vous donner un à peu près. Et donc voilà. le pilote numéro 23 dans le classement, l'avant-dernier, hein, dans notre classement, comme dans la course, il y a eu 23 pilotes à l'arrivée. Et le dernier, donc, c'est Liuzzi qui a eu 1 point. En 22e, nous avons Sutil, 3 points. Maldonado, Dieu sait comment, est 21e avec 5 points. Alguersuari. Il y a un fan d'Alguersuari parmi vous.
Pourquoi Alguersuari?
Expliquez-vous. Qui est 20e avec 7 points. Nous avons Kartikeyan qui est devant Alguersuari, 19e avec 8 points. Jarno Trulli, 18e avec 10 points. D'Ambrosio avec 14 points et 17e. Rubens Barrichello avec 22 points et 16e. On arrive dans le top 15 avec Sébastien Buemi qui est 15e avec 34 points. Juste derrière Heidfeld, 38 points avec en 14e position. Et Sergio Perez, 13e avec 40 points. Vous voyez que c'est un peu serré cette semaine, hein. Et c'est que le début. Nous avons ensuite, pour les deux dernières places en dehors du top 10, Heikki Kovalainen, qui est 12e avec 65 points.
Que tu as mis dans ton top 10.
Que j'ai mis dans mon classement, que je l'ai mis 8e, je crois, d'ailleurs.
Oui, exactement, 8e.
Et nous avons Kamui Kobayashi, qui termine donc à la place de Shumi, hein, en 11e position, avec 149 points.
Kobayashi, que l'on a mis tous les trois.
Ah, oh, ben oui.
Je l'ai mis 10e. Tu l'as mis 10e, Dino, et Bilo, tu l'as même mis 9e.
Il fut un temps où si on les avait mis, ils auraient été dans le classement.
C'est n'importe quoi, on a le Alguersuari dans le classement alors qu'il a fait que 15 tours.
Mais Alguersuari, il est pas dans le classement.
Mais il est pas dans le classement.
Enfin, il a 10 points.
Il est loin. Oh là là. Non, Kobayashi. Bah, en même temps, dès qu'il y a des dépassements, j'ai envie de dire Kobayashi n'est pas loin. Voilà, tout simplement.
J'ai même pas vu Kobayashi ce week-end. Enfin,
On l'a vu un tout petit peu. Pas beaucoup, mais on l'a vu un tout petit peu.
Moi, j'ai surtout vu son museau.
Oui, oui, c'est le truc qui nous a le plus choqué, comme, enfin, oui. Apparemment, il a dû essayer de dépasser quelqu'un, puis cette fois-là, ça a pas marché, quoi.
On passe donc à la 10e place, et à la 10e place, avec 181 points, c'est Vitaly Petrov, que j'ai mis 9e, que Bilo a mis 10e. Toi, Dino, tu ne l'as pas vu. Tu l'as pas vu, donc tu l'as pas mis.
Voilà, pas vu, pas pris, hein.
Voilà, Petrov, bah, il a fini 9e. Bon, partait 10e, c'est vrai que c'est pas celui qu'on a le plus vu, hein, ce week-end. Enfin, en tout cas, ce dimanche.
Il a laissé entrevoir de belles choses au début du week-end, et puis c'est vrai qu'en Q2, ouais, il a fait un très bon temps. C'est vraiment dommage cette casse technique, parce que je pense qu'il aurait pu prétendre au podium. Le rythme était plus rapide que celui des Ferrari en qualif. Donc déjà, ça aurait pu faire quelque chose de bien, ce week-end.
Mais ce qui est terrible, c'est que moi, je sais même pas comment il est arrivé. Je crois qu'il a fini 9e, c'est ça?
Oui, il a fini 9e.
Je sais même pas comment il est arrivé 9e, en fait. C'est dans les dépassements et tout, il y a des pilotes.
Bah, c'est vrai que...
Je les ai pas vus, quoi, tout simplement. Je les ai vus à un moment donné, mais il y a tellement eu de trucs que je suis incapable de dire comment il s'est retrouvé 9e, quoi. Qui l'a dépassé, s'il a fait une bonne course ou pas, je suis pas capable de le savoir.
C'est vrai qu'on l'a pas vu, Petrov. Enfin, si au début, quand avec les stratégies décalées, il était avec le groupe de tête, mais enfin, il partait 10e, il a fini 9e, quoi. Il n'y a rien.
Oui, voilà, c'est pas. On va peut-être tout de suite passer à la 9e place.
Hein. Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que donc rappelez-vous, hein, la 10e place c'était 181, la 9e c'est 184 pour 3 points. Di Resta est 9e.
Mais on rappellera que dans le classement du SAV, il ne marquera que 2 points puisqu'il est 9e.
Dino, tu l'as mis 9e. Bilo, tu l'as mis 8e. Alors moi, je l'ai pas mis parce que je l'ai. C'est mon 11e, voilà. Non, mais c'est vrai que franchement,
interdit d'utiliser cette phrase, je te garantis.
Non, mais c'est vrai qu'entre Di Resta, Petrov et Kobayashi, j'ai beaucoup hésité en fait sur ce paquet-là, parce qu'il y avait ce paquet-là, on va dire à ce niveau-là.
Ben moi, j'ai réussi à les mettre tous les trois. Hein.
T'as viré qui?
C'est vrai.
Ah, tu verras bien.
Non, Di Resta, bien, enfin, qui confirme. On en a parlé un peu avant.
Il est en train de se construire une carrière. Parce que franchement, c'est quand même la 3e fois qu'il domine son coéquipier en quali. Et c'est la 2e fois où il termine devant son coéquipier à la régulière. Il fait vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Oui, ça, en plus, faut dire, parce que même si Sutil a été foutu dehors par Perez, je crois, il était déjà derrière Di Resta.
Di Resta aussi a eu un choc. Les Force India, elles ont été très cabossées ce week-end.
Je veux dire, Di Resta, il est en train de faire... Ça se trouve, c'est lui qui va aller rejoindre une écurie plus huppée à la place de Sutil, quoi. Sutil, je m'inquiète pour lui.
Bah là, pour l'instant, ouais.
Sutil, pour moi, c'est un peu comme le même phénomène que Glock. Je me demande s'il est encore motivé. Je pense que c'est qu'un pilote qui avait vraiment envie de partir en fin de saison chez Renault, par exemple, parce qu'il sentait qu'avec le départ de James Kay vers Sauber, qu'il y avait un truc qui allait moins bien tourner chez Force India. Et on voit, Force India n'est pas au niveau de son début de saison 2010. Et je pense qu'il est, je pense qu'il est peut-être aussi en partie démotivé et que voilà, à côté il a un débutant qui a sa chance en Formule 1 après être passé sur autre chose. Il sait se défendre et je pense que c'est peut-être le meilleur équipier que puisse avoir Sutil aujourd'hui pour vraiment juger Sutil. Maintenant, il faudra voir si Sutil a envie de se sortir les doigts du cul.
Ça faisait longtemps.
Sutil de se sortir les doigts du cul.
Et pourquoi pas un Di Resta à terme pour remplacer par exemple Schumi chez Mercedes. En plus, on sait que Mercedes, ils ont fait très allemand l'an dernier. Ils veulent faire un peu moins allemand cette année. Pourquoi pas?
Tout en restant sur un produit quand même Mercedes, c'est-à-dire qu'en DTM, ouais, voilà, il voulait chez Mercedes. Voilà, donc c'est quand même un mec qui est dans la boîte et qui est dans le circuit depuis très longtemps, qui est associé à la marque, donc il est quasiment allemand.
Ça pourrait être pas mal.
Franchement, c'est bien pour lui quand même parce que t'as plein de pilotes qui ont commencé tard, hein, parce que cette saison, les débutants, ils commencent tard. Là, Di Resta, il a 24 ans. C'est assez tard quand même. Mais c'est bien pour lui de se montrer tout de suite, quoi. Dès sa première saison, il montre qu'il vaut quelque chose. Et ça, c'est bien pour lui, ça va faire de bons points pour lui, et je pense que déjà, les écuries vont commencer à s'intéresser à lui, et s'il continue sur ce rythme,
il est régulier surtout, c'est ça qui est assez grave, il est régulier. Ça fait quand même 3 grands prix de suite où il est pas impressionnant, il fait pas un coup d'éclat comme a fait Perez. Il est sur des stratégies plus classiques et il fait des bonnes courses. Pour le moment, Di Resta en 3 courses, il a montré que c'était une valeur sûre, qu'il savait finir les courses, qu'il savait les faire, qu'il savait se battre dans le peloton, qu'il savait défendre sa place.
Il fait des débuts de très bons pilotes. Les bons pilotes, dès le départ, bon, ils gagnent pas des courses, mais tu sens même avec une voiture un peu moins bien qu'il y a quelque chose. Et Di Resta, pour l'instant, il arrive avec sa Force India à faire des trucs.
Zéro erreur, hein, c'est vrai que j'ai pas vu faire d'erreur cette saison pour l'instant.
En tout cas, pas de très grosses, quoi. Qui mérite qu'on voit que la caméra sur lui.
Non mais c'est vrai, tu vois. Alors autant on parlait par exemple des débuts de Petrov l'an dernier, on disait il a sa place en F1, mais voilà sur un pilote milieu de plateau, pas forcément le type qui va gagner des victoires, mais qui est assez bon pour être en F1. Di Resta, il fait des débuts pour peut-être dans quelques années être un très bon en F1. Peut-être pas champion du monde, ouais. Ça, c'est encore autre chose.
Mais qui sait.
Après tout, pourquoi pas? Parce qu'il fait des bons débuts. Qui sait, voilà. Mais pourquoi pas, avec plus d'expérience, être au moins capable de gagner des victoires, qui serait le niveau dessus, on va dire.
Je pense qu'il est assez professionnel pour prétendre à ses objectifs-là. Il est très professionnel.
Ah oui.
Franchement, il est bien.
On va passer au 8e, que moi j'ai mis. D'ailleurs, je l'ai mis 8e. Et Dino, c'est vrai, et Vilo ne l'ont pas mis. Alors, était-il en colère? On l'a vu. C'est Fernando Alonso, qui, j'ai envie de dire, comme à son habitude cette année, est quand même un peu moins bien que son coéquipier. En tout cas, certainement, en Chine, il était moins bien.
Oui, voilà, un peu moins bien. Encore une fois, au départ, il est un peu moins bien. Mais c'est vrai qu'en Australie, en Malaisie, généralement, dans les 50 tours qui restaient, il était bien meilleur. Là, dans les 50 tours
qui restaient.
Il a été... Voilà, moi, je l'ai pas vu. Enfin, ouais, il s'est battu avec Schumacher, mais...
Ah, c'est quasiment que là, hein, qu'on l'a vraiment vu, d'ailleurs.
Voilà, en dehors de ça, j'ai même envie de dire, s'il n'y avait pas eu Schumacher sur son chemin, je l'aurais pas vu, Alonso.
À noter qu'Alonso est 8e avec 226 points. Non. Alors, il a été disculpé de son problème de DRS.
Oui.
Parce que après la course, il y a eu ces vidéos, on le voyait utiliser DRS sur une zone où il n'avait pas le droit.
À l'entrée des stands.
La FIA a dit, il n'y a pas de souci, c'est un souci DRS, pardon. Je crois que c'est en Australie, je crois que c'est Buemi, je sais plus quel. Enfin, il y a un pilote qui avait eu ce même genre de souci. Donc la FIA, Barrichello, c'est pas de ça.
Mais en fait, c'est le DRS qui, au lieu de s'activer à la ligne de DRS, s'est activé.
Il s'est décalé en fait.
Voilà, il s'est activé à 300 mètres du freinage, ce qui fait que la distance était toujours la même, et comme il s'est activé plus tard, il est resté activé beaucoup plus tard. Et c'est là où le système finalement devient dangereux, puisque tout d'un coup, un pilote peut être surpris en plein milieu sur un tour, à se retrouver avec une voiture qui a plus du tout le même appui à l'arrière que ce à quoi il est habitué. Voilà, ça peut constituer un danger.
Mais moi, je l'ai mis à Alonso. Je l'ai mis 11e.
Ah.
Ah oui, c'est vrai, tu l'as mis 11e.
Ah, toi, tu donnes 11 pilotes dans ton top 10.
Je suis pas le seul, tu vois.
Non, mais je l'ai pas mis dans le top 10 parce que je trouvais que Petrov, Kobayashi et Di Resta valaient un peu mieux. Mm. Alonso, ça fait quand même 3 fois cette saison qu'il loupe son départ.
Disons que là, il le loupe, il a aucune circonstance atténuante.
Voilà,
autant sur les deux premiers, on peut dire en Australie, voilà, ils se portent à l'extérieur, c'est un mauvais choix. Mais bon, voilà, ils sont à 4 de front, il est enfermé à l'extérieur. On peut se dire en Malaisie, où il est gêné par problème de Weber. Là, honnêtement, il y a strictement rien qui excuse son mauvais départ, quoi.
C'est clair, il est sur la partie propre et c'est le démarrage, hein, qui le conditionne dans cette situation délicate à chaque fois.
Faudrait qu'il essaye à un moment donné de partir derrière Massa en qualif. Pour voir.
Ouais. Ça l'aiderait.
Au contraire, Massa, lui, gagne toujours des places au départ. Et Alonso, alors oui, je vais noter un truc. Sa mauvaise performance a été conditionnée par le fait qu'il se retrouvait derrière Schumacher. Et il a quand même perdu pas mal de temps derrière lui. Pour ça aussi qu'il est aussi largué. Et ce que j'ai noté aussi, c'est à la fin de course où il s'est mis à critiquer son équipe dès que ça va pas.
Oh, ça, voilà. Ça devient une habitude chez lui.
Et là, il a pas joué le rôle de leader. C'est-à-dire, il a plus balancé son équipe en disant, oui, la voiture est pas bonne de toute façon, quoi qu'aurait été la stratégie, on aurait été derrière, alors que Massa prouvait le contraire. Et...
Donc le leader, et il... donc voit... le leader, il devrait plutôt dire, oui, tout marche bien, c'est super, la voiture est idéale, et rien n'a changé.
Ah non, 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 je dis pas ça. Sauf que là, il est en train de dire que, de toute façon, quoi qu'il arrive, son équipe est larguée. Alors que c'est pas vrai. On a vu sur cette course que Massa était capable d'aller chercher un très bon résultat.
Oui,
pas...
Disons qu'avec une voilà, avec une bonne stratégie et une bonne course, c'est vrai que Massa a fait un truc peut-être plus convaincant.
Et avec une stratégie, avec une bonne course, voilà. Et puis Massa, il se sort les doigts du cul une fois par an. Alonso, ça fait quand même un an qu'il se sort les doigts du cul avec la voiture. L'an dernier, ils ont sauvé le coup en fin de saison, mais ça a quand même un moment donné où la Ferrari, on n'y croyait pas. Là, la Ferrari, elle n'est pas non plus encore au niveau. À un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui tire la sonnette d'alarme. Il faut bien qu'il.
Oui, mais là, il ne tire pas la sonnette d'alarme. Mais
bien sûr qu'il la tire. Bien sûr, quand le mec il dit c'est comme quand Prost, c'est pour créer l'électrochoc. Schumacher, quand il est arrivé en 96, il a dit publiquement que voilà, la voiture marchait pas, etc. Ils sont obligés de le dire publiquement. À un moment donné, il faut aussi arrêter ce discours qui voudrait dire tout va bien, tout fonctionne bien. Et il a dit on est lent, on n'est pas bon. Voilà, maintenant faut qu'on réagisse. Il met la pression sur l'équipe, c'est tout à fait normal. Enfin,
c'est pas constructif.
Mais
c'est peut-être ça, voilà.
C'est pareil, c'est faut aussi retenir. Il y a les déclarations qu'il dit dans les médias, et il y a les déclarations qu'il dit dans l'équipe. C'est pas constructif par rapport aux médias, mais il faut quand même pas oublier que depuis le début de saison, il est assez sympa envers l'équipe, où il a plutôt tendance à être assez enthousiaste.
C'est vrai.
Et là, il a dit, bon, là, il y a un problème, faut qu'on résolve le problème, etc. Mais on se doute bien qu'en interne, il est beaucoup plus constructif dans ce qu'il dit. Mais c'est, Alonso, il est très malin dans ce qu'il fait. Il sait très bien que c'est de la com. Il sait très bien que c'était à ce moment-là, juste avant la pause de 3 semaines, qu'il fallait mettre la pression et qu'il montre qu'il était frustré. Que c'était pas une semaine avant le Grand Prix de Chine où ça changerait rien. Là, il sait que pendant 3 semaines, les mecs, ils vont repartir avec le couteau entre les dents en se disant, Alonso n'est pas content. Il en a parlé publiquement et il crée tout d'un coup, il y a un truc médiatique. Il maîtrise très bien les médias. Enfin, il a choisi le timing. Il savait très bien à ce moment-là qu'il devait sortir. C'est des pros de la communication. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Hein.
Par contre, pour Massa, t'as d'accord quand tu dis qu'il bouge le cul qu'une fois par an en Malaisie. J'ai pas pu protester, mais en Malaisie, il n'a pas son problème au stand qui fait perdre 8 secondes au premier arrêt. Il est devant Alonso toute la course.
Sur le début de saison, on va dire l'écart entre les deux a l'air d'être moins prononcé que l'an dernier.
Faut aussi regarder aussi, c'est le voilà, quand je dis il se sort les doigts du cul une fois par an. Ouais, voilà, ça fait 2 courses en une semaine où il s'est sorti les doigts du cul à la limite. Ça fait quand même 1 an que Massa ne fait rien chez Ferrari. L'an dernier, la seule fois où il s'est un petit peu réveillé, c'était en Allemagne. En dehors de ça, à chaque fois, il a été dominé par Alonso. Là, cette année, c'est vrai que entre guillemets, c'est quand même.
Faut voir si ça continue ou pas. Quoi. C'est tout.
C'est quand même assez paradoxal de voir que tout d'un coup, on a un Massa aussi qui est meilleur, un peu comme en 2008 où on avait un Massa qui était meilleur parce qu'il y avait plus entre guillemets Raikkonen qui était un petit peu découragé, ou en tout cas qui était plus vraiment dans le truc. Et en 2009, il était aussi meilleur que Raikkonen parce que Raikkonen avec une voiture qui fonctionnait pas, il en avait strictement rien à faire, donc il a pas fait grand chose. Là, il sent peut-être aussi que Alonso commence à être frustré. Et que il lâche peut-être aussi un peu les amarres et Massa se dit voilà, je vais jouer le rôle du rassembleur. Le problème c'est que c'est pas dans les moments où ça va mal qu'il faut être bon, c'est dans les moments où ça va bien. Il fallait être bon l'année dernière, être bon en Malaisie et en Chine en 2011 alors que la Ferrari ils sont à la rue, ils sont quatrième alors qu'aux essais hivernaux ils espéraient jouer la victoire. Être bon à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là qu'il faut être bon. Il faut être bon quand t'as la voiture pour être bon. Et oui, j'ai un peu l'impression que Massa, quand on a des bonnes performances de Massa, c'est au regard des mauvaises performances de ses coéquipiers parce que ils sont découragés ou qu'ils sont voilà, qu'ils ont plus forcément la tête à ce qu'ils font.
On va y revenir, mais avant on va passer à la 7e place. À la 7e place, je crois que c'est la première fois qu'il marque des points cette saison.
Mon Dieu.
C'est vrai, tu peux dire ton Dieu, parce que vu comment tu nous en parles, tu nous as souvent parlé, c'est Schumi qui est à la 7e place.
Je sais même plus combien je l'ai mis, moi.
Eh bien, Schumi, tu l'as mis... C'est vrai que tu l'as mis 5e.
Ah ouais, mon Dieu.
Alors que c'est vrai que moi et Bilo, on l'a mis 7e. Il fait une bonne course, mais il fait une bonne course dans le cadre de la bonne course de Mercedes. Il est dans ce cas, j'ai envie de dire, c'est pas le premier hein, dans cette situation-là, c'est-à-dire je fais une bonne course, mais le problème, c'est que mon coéquipier en fait une encore mieux.
Ouais.
C'est dommage, parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce moment d'action, par exemple, avec Alonso, qui était quand même bien sympa.
Et il a montré, l'an dernier, l'an dernier, c'était justement en Chine, où on avait Hamilton, Vettel, Alonso, Weber, qui le passaient dans tous les sens, je m'en souviens.
Sous la pluie,
et
en
là,
plus.
C'était... Ouais, voilà.
Son terrain de jeu, quoi.
Oui.
Voilà. Et il me faisait de la peine, Choumi. Là, on a Alonso, c'est pas n'importe qui a le DRS, et pendant 4, 5, 6 tours, Choumi, il a résisté. Voilà, on a senti vraiment l'envie de Choumi, il voulait rester devant, il avait l'envie, et c'est vraiment dommage cette qualification tronquée, j'ai envie de dire, avec ce problème de Petrov. Choumi, il serait parti un peu plus haut, il aurait fait une meilleure course. J'attends vraiment le week-end parfait de Schumacher pour voir ce qu'il est capable de faire.
Mais c'est là où ça rejoint un peu ce que je disais la semaine dernière sur le fait que peut-être qu'en qualif, il a même implicitement moins cette envie de prendre des risques, etc. Parce qu'on voit bien, quand il s'agit vraiment de se battre pour quelque chose de concret, une place en course est concret, là, ses instincts sont là. Mais c'est vrai qu'en qualification, c'est peut-être un peu plus virtuel pour lui. Il met peut-être moins d'attachement et moins de force. Alors que là, c'est vrai qu'on voit en course, la motivation, elle est là.
Quelle belle amélioration quand même pour les Mercedes. On les attendait pas à la fête, quoi. Faut bien le dire. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui Rose Brown, il y a eu des déclarations là qui sont sorties là dans la journée. Il a expliqué en fait, ils ont un peu changé leur manière de travailler en fait ce week-end.
Ouais.
Alors, je suppose qu'en fait avant ils essayaient de voir qu'est-ce qui n'allait pas pour le changer, donc forcément pas forcément marchant. Et là Rose Brown dit en fait on a plus essayé de voir comment bien faire fonctionner ce que l'on a.
Ce que devrait faire Ferrari, ce que ne fait pas Ferrari. Ça fait quand même deux fois que Ferrari le vendredi matin fait des tests aérodynamiques où les mecs testent des ailerons, etc. La voiture est pas extrêmement mauvaise, hein. Il suffirait juste de se concentrer sur la performance en qualification, etc., sur le setup et tout, et il ferait des meilleures courses. Là, on le voit en Chine, c'est criant, quoi. En Chine, Ferrari se sont concentrés sur essayer de limiter la casse. Et quand tu essayes de limiter la casse plutôt que de jouer la gagne, ça, tu peux pas faire mieux, quoi.
Voilà. Apparemment, Mercedes, au lieu de changer la voiture, ont plutôt essayé de changer leur façon de faire pour plutôt s'adapter à la voiture. Voilà. Ce qui prouve, c'est une approche qui prouve que, voilà, si tu peux faire ça, c'est que, à la base, la voiture n'est pas, en effet, mauvaise. C'est juste qu'il faut essayer de trouver le bon truc pour essayer de bien l'exploiter. Et en effet, c'est peut-être une approche que devrait prendre Ferrari. Allez, on va passer à la sixième place. Et on va revenir chez Ferrari, puisque c'est Felipe. Felipe, alors que tous les deux vous avez mis quatrième, ouais. Moi j'ai mis cinquième. Finalement il est sixième.
Sixième avec.
Sixième avec 570 points.
Sachant que Schumacher, je ne sais pas si tu l'as dit.
Je l'ai pas dit, oui. C'est ce que je suis en train de me dire. Schumacher, lui, avait 482 points. Donc Massa, vous en avez déjà un peu parlé. Il fait quand même un truc pas mal, Massa. Bon, il a aussi essayé de faire la stratégie des pneus. Lui non plus, ça a pas vraiment marché.
C'est sorti les doigts du troupion.
Vous l'avez mis quatrième, hein.
Ouais,
parce qu'il y a d'autres devant qui m'ont subjugué aussi.
Alors, je vais te dire pourquoi je l'ai mis quatrième. Je l'ai mis quatrième parce que, je me suis dit, à la place, cette course-là aurait été faite par Alonso, t'aurais mis Alonso quatrième. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai des trucs à plus en, voilà. Moi, Massa, je l'ai toujours dit, c'est pas un pilote qui me transcende. Enfin, quand je vois piloter, il me fait pas envie. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, j'ai cette impression avec Massa que il est toujours au même niveau et qu'en fait ce sont ses coéquipiers qui font le yo-yo. Voilà, c'était le cas avec Raikkonen et c'est le cas là avec Alonso. J'ai vraiment l'impression qu'Alonso sur cette course-là, il n'est pas allé à fond et qu'il était peut-être un petit peu démoralisé et qu'il attendait sans doute la Turquie. Et d'ailleurs, c'est aussi significatif de voir que la meilleure course de Massa l'an dernier, c'est en Allemagne. Au moment où les Ferrari se réveillent, en fait. Et où peut-être au moment où Alonso commençait peut-être à douter en se disant, voilà, ça fait quand même plusieurs Grands Prix qu'on n'est plus dans le coup, la Turquie c'était pas terrible, je crois que Valence non plus c'était pas terrible, etc. Donc, il avait en plus raté une belle occasion au Canada, donc peut-être qu'il commençait à se décourager, et là, hop, on arrive en Allemagne, les Ferrari sont les meilleurs, et Massa est un poil meilleur qu'Alonso. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil, quoi. J'ai l'impression que c'est Alonso qui est un peu démoralisé et qui, surtout, a peut-être fait une croix à l'avance sur ce Grand Prix de Chine en attendant la Turquie. Et que, du coup, c'est Massa qui tire les marrons du feu, quoi.
En même temps, je vois pas pourquoi on lui reproche ça.
Non, non, c'est pas un reproche, c'est juste un constat.
C'est vrai que ça se voit pas qu'il se déchire, parce que c'est vrai que c'est plutôt discret. Mais je veux dire, la performance est là. On l'a vu, il s'est quand même battu avec les pilotes McLaren. Il est passé devant les deux pilotes McLaren. Il est remonté sur Vettel, qui avait 3 secondes d'avance, qui avait plus qu'une seconde. Il était remonté aussi en début de course. Il a fait une super course, quoi. Il rivalise avec les meilleurs. Là où on pensait que la Ferrari allait être une fois de plus à la traîne, eh bien, il a lutté avec les meilleurs. Il a lutté pour la victoire.
Il est sur quelle stratégie? Il est sur la même stratégie que Vettel. Vettel, il est au même niveau que Vettel à ce moment-là. Faut le comparer pas au pilote McLaren, mais à Vettel.
Non, je le compare justement. Premier, jusqu'à ce que la stratégie, elle est différente à partir de la mi-course. Et pendant la première moitié de la course, Massa, il est avec les pilotes McLaren. Il a dépassé Hamilton, ils étaient sur la même stratégie. Il a dépassé Button, ils étaient sur la même stratégie. C'est à la mi-course où là, on a changé. Et que Massa s'est retrouvé en deuxième position, mais sinon il était avec et il est remonté sur Vettel qui avait la même stratégie que lui. Donc il a lutté pour la victoire avec une voiture qui n'était pas censée lutter pour la victoire. Ça, on voit qu'il a fait du bon boulot quand même. Donc je veux dire, ça aurait été à Alonso, on aurait dit waouh génial, il a transcendé la voiture, il a lutté pour la gagne. Et là, juste parce que c'est Massa, on dit rien. Non, moi je proteste.
On passe à la cinquième place. Il a marqué 645 points et ce dimanche, il a gagné un nouveau surnom, puisque maintenant on peut l'appeler le Bigleux. C'est Jenson Button. Donc, oui, ce qu'on peut retenir, c'est cette erreur.
Hein. Non, c'est pas une erreur, c'est volontaire, il a essayé de tricher. Arrête.
Non, oui. C'est un type chez Red Bull qui dit, ouais, il a voulu tricher, il a voulu gêner Vettel.
Eh ben, je suis d'accord.
Bon, il a triché, il a été puni. Voilà.
Bah même pas réellement.
Non, moi je suis étonné qu'ils aient pas de pénalité quoi. Enfin c'est même si c'est une erreur. Enfin c'est sur le coup moi quand je l'ai vu j'ai même pas attendu je l'ai vu tout de suite. C'est pas normal qu'il passe par le milieu. Et il m'a fallu un temps pour me dire attends. Généralement les mecs passent pas par le milieu. Et c'est le premier truc que j'ai dit je crois sur Twitter avec Shinji c'est est-ce qu'ils ont le droit quoi. Est-ce qu'ils ont le droit de passer par un autre stand.
J'ai répondu je ne sais même pas si c'est prévu au règlement s'il y a un cas pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose pour gêne en fait
parce que c'est ça, en parce fait, que le problème c'est que lui fait une faute mais du coup sa faute elle a des conséquences sur Vettel même si Vettel est gagnant et qu'il gagne une place Vettel il perd quand même 3-4 secondes dans l'affaire c'est 3-4 secondes à la fin c'est peut-être plus forcément le même topo avec comment ça s'appelle
il perd pas tant que ça Vettel hein.
Non, une seconde il perd une seconde au maximum en
fait. Il y a des automatismes il y a des trucs il y a des procédures entre guillemets des micro procédures à recommencer qui font perdre honnêtement une seconde je suis pas sûr qu'il perde qu'une seconde je pense qu'il perd 3-4 secondes sur ce truc là j'ai pas les temps des j'ai pas le temps de l'arrêt mais je pense qu'honnêtement il perd 3-4 secondes qu'il n'aurait pas perdu sans cette erreur de Button. Et 3-4 secondes, 3-4 secondes à la fin, c'est peut-être plus forcément la même histoire.
Notez que même Red Bull n'a pas... Ils n'ont pas voulu polémiquer là-dessus. Hein. Même eux prennent ça pour une bourde.
Ouais, voilà, comme tu l'as dit, il y a un mécano qui a dit « Ouais, ils ont triché, etc. »
Ouais, ah ouais, voilà,
l'erreur est humaine.
En même temps, c'est normal que le pilote, en rentrant dans les stands, il doit se mettre en mode entre guillemets automatique.
Ah oui, tout à fait.
Il doit pas réfléchir. Il rentre, il met le limiteur, et voilà, faut qu'il se mette complètement en mode automatique, parce que faut que ça soit le plus rapide possible.
Et c'est vrai que autant par exemple Red Bull n'a pas forcément besoin de mettre quelqu'un dans la ligne des stands pour rappeler à son pilote où se trouve son stand, puisque c'est le premier, c'est visuellement, il y a les repères visuels qui sont là. Autant pour les autres derrière, par exemple pour McLaren, il y aurait dû avoir un mec avec une sucette ou un mec avec un cahier ou un truc dans le genre qui a indiqué un signal à Button pour dire c'est là que tu t'arrêtes et pas avant quoi. Il y a une erreur d'organisation à ce moment-là.
Moi, dans F1 2010, je les ai perçus, mais mes canaux vont, quand on rentre tous en même temps, j'arrive. Hein. Il est bête de te voir. Alors, pour info, Vettel, 21,9 au stand. Et si on prend Hamilton, il fait 20,8. Si on prend Massa, c'est 21,6. Bah, Vettel, il perd une seconde, hein, en plus.
Ouais, bah, c'est ça, parce que... Et sinon, sur le reste de la course de Button, parce que sa course ne se résume pas quand même qu'à son arrêt.
Ça l'a un peu éclipsé sur la fin.
Oui.
C'est bête pour lui, puisque je le voyais bien gagner quand même. Hein. Il a pris la tête, mais que le début de course.
Ouais, au début, oui.
Déjà, gère bien ses pneus.
Il a pris la tête au moment où la course était chiante.
Oui, au tout début.
Voilà, il a l'occasion de faire quelque chose, parce que derrière, t'as Hamilton qui doit résister aux assauts de Vettel, et tous les deux qui perdent un petit peu de temps avec les joueurs, et Button qui est là. Et Button, c'est vrai que sans cette gaffe, il serait peut-être resté devant Vettel, ça aurait fait un bouclier pour lui face à Hamilton, Hamilton n'aurait peut-être pas passé à un moment donné dans le Grand Prix. Voilà, c'est un des pilotes qui aurait pu se battre pour la victoire, et cette erreur lui coûte la victoire. Il a été très bon en qualif.
Ouais.
Mais encore une fois, son côté économie des pneus lui a pas. On n'a pas encore eu le sentiment cette année que.
En Malaisie, quand même.
Si, en Malaisie, ouais, c'est vrai. Mais là, peut-être moins. Oui, alors que justement, il y a eu beaucoup de choses sur les stratégies de pneus cette semaine. On l'a moins vu par rapport à ça, Button. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. On passe à la quatrième place?
Oui.
Avec 714 points.
C'est qui?
Eh bien, je peux dire que je l'ai mis quatrième, Bilot l'a mis cinquième, tu l'as mis sixième, il était invincible, eh bien, il ne le sera plus, c'est Sébastien Vettel. Alors déjà, hein, il y a un mauvais départ.
Ouais, c'est totalement sa faute en plus, hein.
Oui, il a cherché l'excuse comme quoi il n'était pas sur le côté propre, alors que Hamilton, sur le côté propre, l'a bouffé, quoi.
Oh non, il a fait un mauvais départ. Enfin, on a vu la vue intérieure de Vettel. Clairement, voilà, il fait pas un bon départ, quoi, tout simplement.
Il relâche l'embrayage trop tard.
Ouais, je crois que oui, c'est ce qu'ils avaient expliqué sur le coup. Pas de souci de kerf, rien. Bah même à lui, ça peut arriver. C'est bien de voir que Vettel peut être humain et faire des erreurs.
En même temps, c'est grave de dire que il faut ça. Il faut une erreur de Vettel au départ. Oui. Pour que on se mette à espérer, parce que quand même, après les qualifs, personne n'avait espoir pour la course, quand même, hein.
Ah non, bah oui, clairement.
D'ailleurs, tout le monde le disait au début de la course, moi, les commentaires que j'ai pu avoir en début de course, c'était un petit peu, bon, bah, heureusement qu'il s'est fait passer, parce que Vettel devant, on n'aurait jamais eu cette course super serrée, en peloton, à tous les pilotes à moins d'une seconde, dans les 10 premiers tours, quoi, parce qu'il y aurait déjà Vettel qui serait devant.
Ce qu'il y a eu aussi, c'est que, il est resté dans le rythme des McLaren. Ça, ils l'ont fait remarquer, c'est que, justement, sur ces 10-15 premiers tours, les McLaren ne se sont pas envolés. Ça, oui. Forcément, parce que la Red Bull reste quand même la meilleure voiture. Comme ils sont restés très près, justement, ça a aussi permis cette course.
Puis il y a aussi le phénomène des réglages. On sait que la Red Bull, c'est une voiture qui a énormément d'appui, enfin qui est très très bonne dans les courbes, etc. Et qui pêche un petit peu. Il y avait des passages où on voyait où Vettel est obligé de déborder un pilote, puis de se remettre dans l'aspiration pour le redéborder. Sinon, il pouvait pas le dépasser dans la ligne droite parce qu'il manquait de vitesse. C'est une voiture qui a peut-être un peu plus d'appui pour les courbes et les virages, les deux premiers secteurs, que pour le dernier secteur. Et donc, finalement, il a quasiment pas pu dépasser dans la ligne droite, quoi. Même avec le Kers, on a appris que le Kers, comparé aux 82 chevaux, ils avaient apparemment que 30 chevaux sur leur Kers en ce moment, les Red Bull. Donc, voilà, en ce moment, il est pas armé pour pouvoir faire la course derrière. Il est armé pour la faire devant, par contre.
Enfin, même en faisant une course derrière, il était plutôt bien placé pour gagner.
Ah oui, oui.
Remarquons que c'est un mauvais résultat. Un mauvais résultat pour Vettel, c'est deuxième.
Oui.
Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'il marque autant de points, en fait, qu'en Australie. Ce qui marque 714 points. Mais, cette semaine, 714 points, ça vaut qu'une quatrième place. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Vettel, c'est cet enchaînement, on va dire, sur 30 secondes, où il double, en fait, les deux McLaren. D'abord Hamilton. Ouais. Je double Hamilton, je prends l'épingle, je rentre dans le stand et je double Button. Sur un laps de temps de 30 secondes, quoi. Bon, ça l'a pas aidé. Malheureusement, il s'est refait doubler après. Mais voilà, ce petit enchaînement était bien sympa.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa déclaration après course, quand il a parlé de la stratégie. Et il a dit, bon, écoutez, on a essayé quelque chose. Voilà, oui. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il a relativisé, il n'en a pas fait un drame, ce qui est déjà très bien, ce qui est un comportement de leader. Et en plus, voilà, c'est aussi le message en filigrane, c'est que on en est qu'à la troisième course, on fait déjà des tests stratégiques. On essaye déjà des stratégies alternatives. Grosso modo, on prépare le terrain pour la fin de saison, parce que on a déjà une certaine avance entre guillemets, donc on peut se permettre de faire des tests stratégiques.
En même temps, c'est le patron de Pirelli hein, qui a dit qu'il était surpris par l'économie que faisait Vettel ouais. sur ses pneus. Donc après tout, oui, il a eu raison d'essayer. Mais c'est ça justement ce qui est bien, c'est voilà d'avoir vu des stratégies un peu différentes et puis ces petits coups de poker qui n'ont pas marché malheureusement. Ou heureusement, sachant que je crois que c'est Hamilton qui l'a dit, en tout cas de côté de chez McLaren, à l'origine, ils avaient aussi prévu 2 arrêts. C'est parce qu'ils se sont adaptés, voilà, ils sont passés à 3 et ça a marché.
Du coup, par contre, ce qui est drôle, c'est que du côté de Red Bull, eux, ils disent que au départ, c'était prévu 3 arrêts. Et qu'en fait, quand ils ont vu qu'ils étaient derrière les McLaren, ils se sont dit, on va passer en 2 arrêts.
On va passer au podium. Hein. Oui.
La stratégie de Red Bull et de Ferrari, au début, moi, je croyais que c'était vraiment une bonne stratégie. Je pensais que ça allait marcher, que c'était la bonne stratégie. Et puis finalement, les pneus se sont usés plus rapidement que prévu. Et surtout, le truc qui est, à mon avis, ils ont oublié le fait que c'était des pneus durs. Et les durs, ils sont beaucoup moins rapides. Ce qui fait que même avec des durs neufs, lorsque Vettel est parti, avec les pneus durs neufs, ils roulaient dans les temps et pas, ils n'étaient pas meilleurs que les temps usés de Rosberg et les McLaren. C'est ça qui est.
Il aurait peut-être fallu qu'ils mettent les pneus durs un peu plus tard finalement, parce que ça s'est pas joué à beaucoup. Hein.
Disons qu'ils auraient dû garder peut-être les pneus durs, enfin je sais pas, ils ont fait tendre, dur, tendre ou tendre, tendre, dur.
Ils ont fini sur les durs.
Donc ils auraient peut-être dû justement mettre les tendres au milieu, alors qu'il y avait encore le plein, etc. Et les durs auraient peut-être été un peu plus, un petit peu meilleurs. Et garder peut-être les tendres à la fin, qui auraient rendu la course très excitante dans le dernier tour, pareil, hein, avec une usure des pneus un peu plus grande, etc. Mais
Oui, c'est vrai que quand je pense, ouais, c'est effectivement une stratégie parce que il serait mis en dur, il aurait été quand même devant les pilotes de McLaren, et du coup, il aurait défendu sa position, il aurait été moins rapide, mais il aurait pu défendre sa position, et après, bam, les pneus tendres, et j'oublie tout le monde.
On pourrait même se dire, avec leur aisance en ce moment, est-ce que Red Bull pourrait pas tenter une fois de faire les qualifs en dur, et de partir sur le début de course en dur? Vu qu'ils mettent parfois 6 dixièmes ou 2e, ou qu'au pire, ils se retrouvent derrière les 2 McLaren, en ce moment en tout cas, pourquoi ne pas tenter de faire la qualif en dur en disant on fait pas la pole, mais on fait 3e, 4e, faire une course avec leur rythme de course, etc., qui est bon en dur sur le début, et finir en bombardant avec les tendres, là où les autres vont devoir se dépatouiller avec les durs en fin de course.
Ouais, mais lui, il va devoir se dépatouiller en dur en début de course.
Ouais, oui, mais vaut mieux prendre les durs en début de course que les tendres.
Non, mais ils sont sur une optique.
Puis avec une Red Bull.
C'est l'optique, je pars en pôle, et puis voilà, je laisse tout le monde derrière.
Je ne laisse rien à personne.
Donc, dans ce cas-là, faut optimiser la qualif, et c'est pour ça qu'ils font la qualif en temps. Ouais. On passe au podium.
Non, c'est bien, parce que ça fait plusieurs stratégies différentes.
C'est ça qui était bien, voilà. En 3e place, il avait marqué 65 points en Australie. Il avait marqué 20 points en Malaisie. Vous savez ce qu'on dit? Pas vu, pas pris. Vu beaucoup, pris beaucoup, 921 points. J'ai envie de dire, on l'a plus vu dimanche que toute la saison dernière. Ah, oui. On s'est même pris à rêver, peut-être que cette fois-ci, ça serait son week-end.
Mais rappelez-vous, l'an dernier à Shanghai, il mène encore la course.
Ouais, il aime bien la Chine.
C'est ce que, pour tout vous dire, j'ai eu des SMS d'Enzo pendant la course, parce que quand Enzo voit Rosberg en position de gagner, il a envie d'en parler, donc il m'a envoyé des SMS pour me dire, ah, c'est bon pour Nico, etc. Et je lui dis, attention, Nico Rosberg, déjà l'an dernier, il avait mené un max de tours à Shanghai, et il s'était fait battre par les pilotes McLaren. Attention! Et là, je veux pas dire, mais il s'est encore fait battre par les pilotes McLaren.
Alors, 2 pépins, on peut dire, pour Rosberg. 1, visiblement un souci au niveau de la consommation. Ils avaient peut-être pas prévu qu'en fait que la voiture allait aussi vite.
C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle allait aussi vite. Hein.
Oui, tout à fait. Parce que il l'a pas dit, parce que Nico c'est un gentleman, il balance pas. Hein. C'est un gentil garçon. Hein. Il y a quand même eu Pastor. Il y a quand même eu ce qu'a fait Pastor.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il a fait Pastor?
Il
est sorti des stands et il l'a bien.
Ah oui, ça y est.
Hamilton peut dire merci Pastor.
Ah là, il lui a fait perdre du temps, et oui, c'est à ce moment-là. Même si lui ne parle que de son problème d'essence, même sur Twitter, il y a des gens qui disent, ouais, Pastor, mais très, très gentleman, Nico, il balance pas, un coéquipier, mais sur un autre pilote. Est-ce qu'il avait vraiment une chance?
Non.
Ah, quand même, fallait quand même se farcir les McLaren plus une Red Bull. Mais quoi? Il a mené quand même, combien de tours il a mené?
Mais même, enfin, on peut pas dire est-ce qu'il avait une chance. On peut pas écarter du fait que son problème de consommation en fin de course explique oui, de en partie façon. Le fait que la surconsommation en début de course lui a peut-être donné un surplus de performance, etc. Et voilà, c'est peut-être parce qu'il a été trop performant en début de course, c'est peut-être qu'il a trop attaqué en début de course, qu'il a eu ses problèmes de consommation en fin de course.
Non, c'est un mauvais calcul de Mercedes. Mais je crois que ça se reproduira pas. Moi, je pense que Robert, il avait une chance, parce que, il fait déjà, la stratégie, quand même, déjà, est exceptionnelle. On a quand même Rosberg qui est à, quoi, 5-6 secondes au début, avant son premier arrêt du trio, là. Et après, la première stage des ravitaillements, il est 4 secondes devant Vettel.
Parce qu'il s'est arrêté en premier.
Il s'est passé un truc, il a gagné 8, 9, 10 secondes sur Vettel et les McLaren.
Parce qu'il s'est arrêté en premier. La même chose qu'a fait, c'est ce qu'a dit Weber, j'ai cherché à évacuer les pneus durs en premier pour ensuite en être débarrassé parce qu'on sait que les pneus durs ça fonctionne pas. Et apparemment il fallait vraiment se débarrasser assez vite de ses pneus. Et voilà, il a tapé la bonne fenêtre de changement des pneus, le moment où les autres commençaient à s'effondrer avec leurs pneus.
10 secondes de gagner quand même, c'est pas rien.
Ah, les Pirelli.
Et après,
ah oui.
Ouais, ben, et franchement, en performance pure, la Mercedes, elle était bien sur cette course. Hein. Elle était un petit peu en dessous, mais elle était assez bonne pour pouvoir résister en tout cas.
Ah oui, énorme bond des Mercedes, hein, ça on l'a dit.
Parce que bon, je pense qu'on ne saura jamais. Mais si Maldonado n'avait pas gêné Rosberg, peut-être que Rosberg aurait pu se défendre toute la course face au pilote McLaren.
Que s'il n'avait pas eu ce problème-là, ça aurait facilité la tâche de Vettel. Je pense qu'avec avec Rosberg dans les pattes des pilotes McLaren, la remontée entre guillemets d'Hamilton, Hamilton remonte fort en fin de course. Je pense que Hamilton ne remonte pas aussi facilement et aussi rapidement que ça sur Vettel.
Allez, on va passer à la suite. Et attention, à la deuxième place, il a marqué 1425 points. Joli score.
Bah, je crois que c'est ça bat pas le score la semaine dernière, mais c'est pas loin.
Vettel a fait 1451. Et le vainqueur de la course ne sera pas le vainqueur du SAV cette semaine.
Ouais.
Alors, moi, je l'ai mis deuxième. Bilo l'a mis deuxième. Ah, Dino, tu l'as mis premier.
La combinaison rouge, désolé.
oui, voilà. La combi rouge. Bien qu'il n'en portait pas une dimanche.
Non. Hein.
C'est donc Lewis Hamilton. Il a réussi. Il a réussi à battre Vettel.
La stratégie, tout simplement.
Ah oui,
la stratégie en qualif, hein, voilà, faire la Q1 comme les pilotes Ferrari en économisant les pneus, mais pas parce qu'il manque de pneus, mais parce qu'il veut en garder des frais pour la course, parce qu'il a appris de ses erreurs à Sepang, voilà. Et ce que je disais tout à l'heure.
On sentait déjà qu'à Sepang, il était pas très loin. Hein.
Ce que je disais tout à l'heure sur Red Bull, qui peut sembler bête, mais de se dire voilà pourquoi il tenterait pas de faire les qualifs en dur, c'est-à-dire de sacrifier la qualif en vue de la course, c'est ce qu'a fait Hamilton. Il pouvait aller chercher peut-être la pole, en tout cas la deuxième place, il a sacrifié sa qualif en jouant tout sur un run, sur un tour finalement, en se disant voilà, en course, je vais peut-être partir deuxième ou troisième, je vais quand même y aller, j'aurai un avantage avec des pneus neufs, et c'est ce qu'il a fait. Et la course, elle est maîtrisée, tout simplement. C'est de très loin, peut-être avec la Grande-Bretagne en 2008, c'est sa plus belle course, c'est sa plus belle victoire.
Bah, je crois qu'il a dit que c'était une de ses plus belles courses, enfin dans les deux trois premières.
Il le dit à chaque course en même temps, hein. Que c'est sa plus belle course.
Mais là on est d'accord.
Cette semaine, on a envie de le croire.
Mais en plus, il était ému, puis il y a le scénario, enfin, lui qui revient sur la grille, il part à 15 secondes de l'obligation de partir des stands, etc., parce que les mecs sont en train d'éponger dans la voiture, ils mettent du PQ.
Il nous a donné l'explication, apparemment, c'est une, alors c'était un truc qui était mal attaché, ce qui fait qu'il y a de l'essence qui s'est répandue. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils nous disent, oui, il y a de l'essence qui s'est répandue, mais genre, il y en a pas beaucoup. Et faut se rappeler quand même de l'image, en plus ça a fait l'ouverture de F1 Live. On voit l'arrière de la McLaren complètement ouvert, et j'ai été sidéré, le technicien McLaren qui enlève en effet une serviette éponge.
Non, c'était du sopalin, un gros rouleau de sopalin qui les mecs qui déroulaient, après on voyait dérouler et mettre ça dans le moteur pour
Non, mais ce qui est dingue, c'est que tu le vois sortir le sopalin, mais le sopalin, il est pas juste humide. Le truc, il est suintant. Moi, je pensais que c'était de l'huile ou ça. Non, en plus, c'était de l'essence. Alors, apparemment, ça s'est répandu un peu sur les filtres à air et tout ça. Vous imaginez le bordel que ça devait être. Et en plus, première image, quoi. Entre guillemets, on se connecte sur la Chine. Et on voit les gars s'affairer comme des malades. On se dit, ah, il y a un petit souci chez McLaren.
Et puis on a vu aussi la qualité et l'espèce d'osmose qu'il y a dans cette équipe, à savoir que on avait un Hamilton qui est pourtant voilà, c'est dans le stress, enfin c'est dans le dernier quart d'heure, il y a quand même une dizaine de mécanos. En plus, c'est vrai que c'est pas du tout le genre d'équipe à paniquer quand il y a du départ. Ils se sont paniqués, ça commence à aller dans tous les sens, et lui dans le baquet, il ne dit rien, il est calme. Il va sur la grille, il fait confiance au mec, il prend le départ de la course. Voilà, très serein.
Sur la grille, les techniciens ont eu le temps de mécaniquer.
Oui.
C'est vrai qu'il a bien grandi. Mais c'est vrai qu'il a... Il a été très professionnel. Il n'a pas déconcentré.
Ah, lui-même l'a dit. Apparemment, il est resté très calme. Ah ouais, lui, dans son cockpit, il était calme.
Pas rajouter de pression supplémentaire. Franchement, oui, il a vraiment bien joué son coup.
Non, puis bon, ils ont bien réparé le truc. Parce que ça n'a pas eu d'influence sur la course.
Oui.
Parce que c'est toujours risque, voilà, ils prennent le départ et puis trois tours après, plus rien.
Et c'est là où tu te dis que si ce mec était parfois en course tout aussi serein et concentré, il ferait pas des erreurs comme il a fait en Italie l'an dernier, comme il a été un peu optimiste à Singapour l'an dernier, et que, il serait peut-être plus devant encore, quoi. C'est honnêtement, moi, je suis tombé sous le charme d'Hamilton ce week-end. Hein. Je le dis honnêtement.
Il a un style.
Je retourne ma veste, mais
il a un style arrogant et fougueux, en fait, qui est lié aussi à sa jeunesse, malgré le fait qu'il ait quand même une sacrée expérience et un titre. Et
voilà, il y a une confiance. Il a paru très serein, très zen, et en même temps, ce que j'aimais, c'est sur le podium, on l'a vu extrêmement ému. C'est-à-dire que j'aime voir Lewis comme ça, le voir sur la piste. Il a été propre sur la piste, rien à dire. Il a été efficace. Il a fait une course parfaite. En dehors, il a été sobre, rien à dire. Et sur le podium, il a été humain. Voilà. Et par moments, je suis content quand je vois un pilote tomber le masque, un peu comme j'étais très content finalement de d'Alonso en fin de saison, quand on a vu Alonso un peu mauvais joueur, etc., avec Petrov, parce qu'on voyait le côté humain. Et là, je trouve que j'ai vu le côté humain de c'est toi Bilo qui attire ça. J'ai vu le côté humain d'Hamilton, et vraiment ça m'a fait super plaisir de voir ça, et j'ai changé un peu mon regard sur le pilote. Voilà, même si il est toujours magnifique, voilà, cette semaine il avait le droit.
Ouais. Non, il était ému, et puis il avait le droit, quoi. Il a fait une superbe course.
Et il
reste pour l'instant le principal rival, hein, pour Vettel, hein. Pour l'instant, sur ce début de saison.
Ouais.
Je pense que la stratégie est d'avoir mis de ne faire qu'un run en Q3, c'est pas pour la victoire, mais ça lui a permis de rester dans la lutte. Comme elle a dit, on a vu qu'il était largué avec ses pneus. Là, ça lui a permis de rester au contact. Et franchement, je suis vraiment subjugué par sa course et ses dépassements. Ben, déjà, il est propre. C'est un progrès. Mais franchement, il nous fait des dépassements, mais il a même pas besoin du DRS. Hein.
Son dépassement sur Button, ça c'est voilà, cette espèce de petit décrochage de la roue, il passe à l'intérieur.
On voit que c'était Button, hein.
Hein?
Il nous a offert quand même une image rare. il a dépassé quelqu'un pour passer en tête. C'est quand même pas si courant que ça, je veux dire. En règle générale, les courses, c'est soit tu pars devant, soit le dépassement a lieu au tout début, lors du départ, ou bien, ouais, c'est dans les stands. Et voir, voilà, dépasser pour passer devant et passer en première place à 5 tours de la fin, c'est quand même super rare. Enfin, c'est devenu super rare.
Franchement, il était très professionnel et, encore une fois, très, très incisif, tout en étant sage. Et par contre, je voulais te dire un truc, les pilotes McLaren, les mécanos de McLaren, ils ont triché un peu quand même, hein. Parce que, ils ont fait partir la voiture 15 secondes avant le tour rouge, mais elle était pas finie, la voiture.
Ça ah, mais ils avaient le droit.
Ils ont le droit, ça.
Ouais, parce qu'ils ont le droit de travailler après,
Tant que la voiture, elle est en état de rouler, finalement, manquait pas une
course. Comment ils ont bien dû,
elle était pas dangereuse.
Faire gaffe, hein. Non, elle était pas dangereuse. Ouais. Il manquait juste le dessus.
Enfin, quand même. C'est comme si tu allais au boulot, que t'étais en retard et que, en te pressant, bah, tu disais, bon, bah, je vais pas mettre mes chaussures. Et que t'arrives au bureau en chaussettes. Voilà. C'était
non. Ah non, parce non, que, attention,
parce que là, ce qu'ils se sont dit, c'est, je vais pas mettre mes chaussures chez moi, mais je vais les mettre dans le métro.
Voilà, ah, exactement.
Je vais jusqu'au métro à pied, dans le métro, je mets mes chaussures, et j'arrive au boulot, et j'ai mes chaussures. Donc, à mon boulot, j'ai mes chaussures. C'est ça, c'est...
J'allais faire la même comparaison. On passe au vainqueur. Et donc, rappelons, Hamilton, donc, a fini deuxième avec 1425 points.
Et que le record, cette saison, c'est celui de Vettel avec 1451 points, à Sepang.
Donc Hamilton fait une grande course, hein, je crois qu'on est tous d'accord. Et pourtant, quelqu'un a fait une course encore plus grande.
Un poil plus grande, oui.
Un poil plus grand. Il avait une charrette lors de ses deux premières courses. Enfin, une charrette. Disons qu'il était un peu dans l'ombre.
Oui. Maintenant, il a un chariot de feu.
Ah là, il a une fusée.
Qui est une Red Bull.
Qui est une Red Bull. C'est Mark Webber. Qui finit premier du classement avec 1427 points. Autrement dit, il remporte la victoire du SAV pour deux petits points.
D'accord.
Je veux dire que quand le classement était terminé, on l'a regardé deux fois, le classement.
Et puis, en plus, il est remonté en fin de journée aujourd'hui parce que.
Ah oui, oui.
Il avait une centaine de points, en milieu d'après-midi, donc on est mardi. Donc mardi, en début d'après-midi, il y avait une centaine de points d'avance pour Hamilton. Et, honnêtement, sur les deux jours, c'est monté, c'est descendu. Enfin, ils se sont vraiment plusieurs fois échangé la tête. Et quand on est allé chercher le classement à 20h, j'ai même demandé à Shinji après. Je lui dis, est-ce que tu peux me confirmer que tu as le même classement que moi? Parce que voilà. Ça serait con qu'on ait deux classements différents, quoi. Parce que tellement ça change de minute en minute, quoi.
Ah ouais, ça veut dire que. Ouais, mais c'est vrai qu'au début, quand je suis allé sur FanF1 et j'ai vu les commentaires de certains, c'était Hamilton premier, je sais pas. Mais je disais, ouais, c'est Hamilton qui va être premier, quoi.
Et puis après, il y en avait certains qui sont arrivés avec Webber premier.
Ah ben.
C'est là que vous comprenez que faut vraiment faire attention à votre top 10 et faut vraiment le faire avec soin et pas, voilà, chaque point compte. Vous voyez, il y en a peut-être qui se sont dit, oh, je vais pas mettre Hamilton là, en disant, ouais, il va être, eh ben non, voilà.
Il est quand même.
Que moi et Bilou ont mis premier, et Dino, toi tu l'as mis deuxième.
Oui, logiquement.
Mais c'est normal, il n'était pas en rouge.
Non, puis j'ai trouvé son week-end de course moins bon que celui d'Hamilton. Voilà.
Alors déjà, d'abord, c'est quand même pas mal. Ça doit être la première fois dans l'histoire du SAV que le mec qui a la place du con gagne.
C'est vrai. Ça doit être une première.
C'est quand même assez exceptionnel.
À noter qu'il a le meilleur tour en course. Attendez, parce que il a le meilleur tour en 1:38.993. Le deuxième, c'est Hamilton. Hamilton, il est à 1:40.415. Quasiment une seconde et demie.
Ouais, mais il a des pneus frais à la fin. Enfin,
oui,
il a tout pour lui à la fin. Je crois qu'à la fin, il reprenait 2 secondes au tour, à son coéquipier, quoi. 2 secondes au tour. Enfin, même pas, il reprenait 2 secondes au tour au pilote McLaren. Je crois qu'en 10 tours, il a récupéré près de 20 secondes, quoi. C'est hallucinant la manière dont il est remonté sur la fin. C'est les courses ne sont, c'est ça que j'ai aimé dans cette course, c'est qu'elles ne sont jamais finies. Voilà. Et je me dis finalement que les pneus, ça irait très bien, quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter de DRS dessus, de compliquer la chose. Que les pneus, ça serait plus lisible, il y aurait pas tous ces petits dépassements parasites en bout de ligne droite finalement qui apportaient pas grand chose parce que des fois les mecs se redépassaient juste derrière et ça fait de l'action juste pour faire du spectacle. Voilà, c'est juste les pneus avec les différentes stratégies et on le voit là, Weber il fait une course fantastique en dépassant.
Ah, Weber il a une courbe incroyable parce que il part 18e, au bout d'un tour il est 17, au bout de 10 tours il est 15, donc tu vois, c'est pas au plus au début.
Il le dit, quand vous voyez au bout de 10 tours que vous allez sur le panneau, que vous tentez panneauteur, vous voyez tu es 15e, c'est soit vous découragez, soit vous vous y mettez la force du désespoir. Et il dit, moi je me suis pas démonté, on était sûr que j'allais remonter, etc., que j'allais finir fort, et voilà, c'est ce qu'ils ont fait.
Et en plus, encore une fois, il avait pas de kers, ou il avait des soucis de kers. Ça arrive toujours sur lui, hein, bizarrement, enfin. Hein.
Bah,
souvent.
Je l'ai dit tout à l'heure, mais apparemment, il s'avère que, alors qu'ils ont le droit d'utiliser 82 chevaux en plus sur leur kers, ouais. Il semblerait que les Red Bull n'aient que 30 chevaux pour le moment. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont le kers, mais c'est un mini kers. Et ça s'est ressenti ce week-end.
Il faut qu'ils marchent, parce que, même ces 30 chevaux, visiblement, ils ont du mal à s'en servir. Bilo, quelque chose à rajouter sur Weber?
Ah oui, parce que moi je voulais beaucoup parler sur lui en fait. En fait, je croyais être un des seuls à avoir mis Weber premier. Mais Weber. Non mais Weber, il part 18e, il finit 3e à 7 secondes du vainqueur. Il a certes la meilleure voiture, mais de peu. Il a pas le kers, donc un handicap. Il n'y a pas de pluie. Donc stratégiquement ou au niveau du pilotage, on ne pouvait pas céder. Il n'y avait pas de safety car pour annuler les écarts. J'aimerais quand même savoir la dernière fois où un pilote qui part aussi loin termine sur le podium sans safety car et sans l'aide de la
pluie. La raison, elle est simple, c'est Pirelli. Ah ouais. Les différences de stratégie, les différences de gomme, le fait qu'il y ait des mecs qui, en fin de course, à voiture égale, t'as des écarts de 2 à 3 secondes, la différence, elle est là, c'est Pirelli. C'est-à-dire que tu cites comme circonstance atténuante pour remonter la pluie, la safety car qui réduit les écarts, etc. Là, il y a, quand on entend, comment s'appelle, Bernie Ecclestone parler de pluie artificielle, il n'y en a pas besoin, il y a Pirelli. À eux seuls, les pneus suffisent à animer la course, à faire tous les phénomènes de changement de pneus. Ce qui anime les courses, c'est savoir quand on va mettre les bons pneus pour la pluie, sans que ce soit trop tard, sans que ce soit trop tôt. Là, c'est pareil, sauf qu'il n'y a même pas besoin de rendre la piste humide. Quoi. C'est quand est-ce que je vais changer les pneus avant qu'ils s'effondrent, et tout en les exploitant à leur maximum. Voilà, et c'est comme ça qu'il a gagné. C'est qu'il a parfaitement utilisé chaque train de pneus, il a évacué les pneus durs dès qu'il n'en avait plus besoin. Dès qu'il a senti que les pneus durs étaient moins performants que les tendres, il est rentré, il a fait toute sa fin de course en pneus tendres. Voilà, il a gagné à la stratégie, et c'est ça qui nivelle finalement et qui lui a permis de remonter. C'est pas une safety car, c'est pas la pluie, c'est un autre élément extérieur, c'est le pneu Pirelli. C'est leur force finalement, c'est que on a des courses aussi animées et aussi incertaines et aussi parfois hasardeuses que sous la pluie, mais sur le sec, grâce à Pirelli.
C'est ce qu'on voulait, faut pas l'oublier.
Ouais, c'est ce qu'on voulait. Hein.
C'est ce qu'on voulait.
Mais on est d'accord. Sauf que, il y a quand même, à la mi-course, il est quand même à 50 secondes. Il remonte, mais comme un boulet de canon sur tout le monde. Même ceux qui ont choisi la même stratégie que lui, ils ont remonté comme un...
Mais oui, mais, non, mais, il a pas, lui seul n'a pas récupéré 50 secondes avec ses pneus. Lui, il a peut-être gagné 20 secondes, 25 secondes. Mais les secondes que lui, il a gagné avec ses pneus, les autres, Vettel et compagnie qui ont dû économiser, ces secondes-là, ils les ont perdues. Ça s'équilibre. Enfin, faut pas penser qu'il a rattrapé 50 secondes.
Ça s'additionne.
Il a rattrapé des secondes et les autres en ont perdu. Ça s'est rééquilibré au fur et à mesure de la course. Ce qu'il a perdu au début, il l'a gagné à la fin. Et les autres, ce qu'ils ont gagné au début, ils l'ont perdu à la fin. C'est le principe. C'est-à-dire que, forcément, quand on a ce type de pneu avec l'obligation d'avoir les deux trains de gomme différents à un moment donné, automatiquement, ce que tu perds dans un relais, tu vas le récupérer dans l'autre. Et c'est vice versa.
On va passer au classement du SAV. Au classement du SAV, Vettel est toujours premier. Avec 62 points. Hamilton est deuxième avec 53. Et Weber, eh ben, il se retrouve troisième avec 43 points. Donc, il n'y a que 20 points d'écart hein, à l'échelle du SAV. Du côté des constructeurs, eh bien Red Bull a déjà dépassé les 100 points, puisque Red Bull a 105 points, devant McLaren 79 et Ferrari 40, qui repasse devant Lotus Renault quand même Ferrari. Noter Mercedes qui fait son entrée avec 21 points. Dans l'autre classement, Vettel est premier, hein, donc il a marqué 68 points sur 75 possibles. Lewis Hamilton est deuxième avec 47 points. Et c'est Button qui est troisième avec 38 points, tandis que Weber est quand même quatrième avec 37 points. Chez les constructeurs, Red Bull Renault a 105 points aussi. Quelle surprise! Devant McLaren, 85 et Ferrari, 50. Et Mercedes, ils sont plus 8e avec 2 points. Ils sont 5e avec 16 points. Ils sont encore loin, mais voilà, ils sont 5e. On va passer au fait marquant. Revenons sur le fait marquant de la Malaisie. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Malaisie? Vous avez été 50 à voter, on vous remercie.
Tant que je veux.
Bien sûr, si tu le dis.
On s'internationalise un petit peu, donc faut parler international.
Est arrivé troisième, je crois que c'était toi Dino qui l'avait donné, c'était les Ferrari qui confirment leur méforme, ouais. 24%, 12 votes. Est arrivé deuxième, les problèmes de fiabilité liés aux KERS, 28%, 14 votes. Et est arrivé premier, donc Petrov me porte chance, puisque le saut de cabri de Petrov, 24 votes, 48%.
Ça fait deux fois.
Ouais. Tu vas être... Là, ça va être plus dur de trouver un truc sur Petrov hein, cette semaine.
Tu vas être interdit d'utiliser Petrov, toi.
Alors, Dino, c'est à toi.
Je vais suivre nos auditeurs, hein, bien évidemment. Je vais dire la folle remontée de Marc Weber.
Alors, on a Shinji, qui me pique mon Faifu. Il y a Dino qui me pique mon Faifu.
Je te pique rien, c'est l'ordre des choses, voilà.
Je vais commencer à m'énerver.
Faut t'en prendre à Antoine qui a choisi un truc pourri la semaine dernière qui fait deuxième. Voilà. Deuxième, c'est voilà. La plus mauvaise place.
Bilo?
Le retour en forme de Mercedes. Rosberg qui aurait pu gagner.
Trop tard, on prend le retour en forme de Mercedes.
Un retour en forme de Mercedes.
Oui, mais c'est un complément. Hein.
Mais ils voilà. S'en fout des compléments parce que les gens ils votent avant.
Moi, je vais dire le premier échec de Vettel de la saison. Alors, Bilo, tu n'as pas donné drive-through, finalement.
Ah oui, c'est voilà.
Est-ce que t'as eu le temps d'en penser à un?
C'est obligatoire, en plus.
C'est obligatoire, le drive-through.
Mais même un drive-through à la con, hein.
C'est les meilleurs, d'ailleurs.
Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un.
Oui, enfin, non, je vais pas vous faire cet honneur. Moi, je suis quelqu'un de sérieux et de... Voilà.
Alors, Bilo.
Alors, si j'en ai un, mais faut qu'on lance une conversation dessus, quoi.
Mais non, t'es pas obligé.
Mais non! Mais comment t'aurais fait l'an dernier? L'an dernier, on lance la conversation, c'était cash direct.
Voilà, s'il vient dans le cours de l'émission, on le lance. Sinon, à la fin, bah, c'est comme à l'ancienne. D'ailleurs, c'est le moment du drive-thru.
Vous mettez pas le jingle?
Ah, bah, tu veux le nouveau ou tu veux l'ancien jingle?
Ah, le nouveau.
Ah, voilà. Shinji, faut que tu dises un mot, parce que tu sais, moi, que faut que tu me dises un mot, si tu veux que...
Oui, alors, dis-moi, attends,
Tu veux juste un mot ou tu veux...
Non, mais attends.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Hey Milo, il nous faut un drive-thru.
Non, tu m'as coupé.
T'as lancé violemment le jingle.
Ah bah oui, moi j'ai fait exprès. Moi je vous donne la parole, c'est pour le mettre derrière.
Non, mais vous allez... Non, tu m'as supprimé, tu m'as coupé. Non, je veux dire... Tu m'as coupé parce que j'ai préparé un truc. Qui c'est qui est leader du championnat, là?
Vettel.
Et Vettel, il est chez qui?
Et Red Bull.
Chez Red Bull.
Allez, tu lances le truc, là, allez.
Ça va être bon, ça. Mais... Ouais. Ok. Je lance alors.
Lance-le, voilà.
Bon bah, je lance. Hein. Excusez-moi, chers auditeurs, c'est pas très bien réglé, mais je lance. Hein. On improvise ce soir.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Alors, je vais mettre un drive-thru à Red Bull. Alors, ils ont un KERS défectueux. Le truc, c'est que il est défectueux sur la voiture de Vettel, et il ne marche pas du tout sur la voiture de Weber. Et après, Red Bull dit, on traite nos pilotes à égalité. Eh bien, cet épisode, Leclerc, nous montre que les deux pilotes ne sont pas traités à égalité. Et voilà.
Non, il montre juste que Weber, il a pas de bol, quoi.
Ouais, enfin, c'est quand même souvent lui qui a pas de bol. Hein.
Voilà. Ça tombe sur lui, voilà. Mais s'il aurait été, honnêtement, s'il aurait été trois fois Vettel qui aurait pas eu le Kers, vous auriez dit que Weber, il était avantagé?
Ben oui.
Oh, 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 la mauvaise foi. Oh, j'adore.
Oh, moins de mauvaise foi. Oh. Non, mais je dis pas qu'ils l'ont fait exprès. Mais voilà. Il y en a un qui a le Kers, il y en a un qui l'a pas. Et voilà. Et ça fait toute la différence. Ça se trouve, Weber aurait gagné tous les Grands Prix depuis le début de saison s'il avait eu le Kers.
Tout ça pour ça.
Mais...
J'ai rien dit là. Oui. Ça vient de Fiji. Moi, j'ai rien dit.
Bon, allez. Lance la musique du drive rouge, je vais mettre un drive rouge à Fiji.
Interdiction de mettre drive rouge contre les animateurs. On a le droit de nous.
Il n'y a que nous.
Nous, on peut
que
se mettre
même.
Des drive rouge.
Voilà.
On peut vous mettre des drive rouge, mais nous, on est intouchables par vous.
Il y a une dictature, une censure dans cette émission. Je
mais tout à fait. Fait. On est un duo vira, tout à fait.
On va passer au concours.
Et vous allez enfin le comprendre.
Oui, oui. Vous allez le comprendre. Ah. Le concours top pas position.
Alors, je rappelle juste la question qui vous avait été posée par Globen la semaine dernière, à savoir, en 2009, lors de quel Grand Prix Fernando Alonso a-t-il fait un malaise à l'arrivée alors que sa pompe à eau ne fonctionnait plus? Et Shinji, la réponse était...
Je ne sais plus.
C'était Bahreïn. Et il se trouve qu'il y a des petits malins, que je ne citerai pas, qui répondent en disant « Oh, trop facile, trop facile, trop fastoche », et qui répondent « La Malaisie ».
La Malaisie.
Voilà. Attention, il y avait un piège. Faut chercher sur Internet. Et donc, on a eu 5 réponses, mais seulement 3 de bonnes.
Eh bien, on prend que les 3 de bonnes.
On le prend, bien évidemment. Ah, non, bah, oui. Toi, tu ne prends rien. Tu peux pas prendre des questions, Bilo. T'as pas le droit.
Je vais choisir là. Je peux choisir.
Non, tu peux pas choisir. T'as pas le droit. T'as juste le droit d'être joyeux ou pas. T'as même pas le droit d'influencer, Shinji.
Je vais pas participer.
Non, voilà, t'as pas le droit.
Mais en même temps, il a pas donné de réponse.
Oui, est-ce qu'il a envoyé il a envoyé une réponse. C'est pour ça que...
Ah bah non, t'as pas le droit.
Il y a que Shinji qui décide. Vous avez même pas le droit de l'influencer. Donc, alors, on vous rappelle le principe. Vous nous avez envoyé vos réponses. Avec vos réponses, vous nous avez envoyé une question qui va vous servir, qui va servir à vous départager.
Donc les 3 bonnes réponses.
Et donc là, il y a 3 bonnes réponses. Et donc 3 questions que je vais te poser, Shinji. Attention, Bilo, tu n'as rien le droit de dire. Et je commencerai par cette première question, Shinji. En quoi Lewis Hamilton est-il rentré dans l'histoire de la Formule 1 à l'occasion de ce Grand Prix de Chine?
D'accord.
Deuxième question. Lors de ce week-end, quelle statistique amusante concerne Felipe Massa?
D'accord.
Troisième question. En 2006, quelle particularité aérodynamique avait la monoplace de Rubens Barrichello à l'arrivée du Grand Prix de Chine?
Les 3 sont intéressantes, vraiment, je tiens à le dire.
J'en consens.
Ah là là, ça va être difficile. Vraiment, je le dis, ça va être difficile.
Donc, on rappelle bien évidemment que seul moi et les questions et que Shinji ne sait pas qui se cache derrière chaque question.
Je sais pas. J'ai envie de prendre Rubens.
C'est le mauvais brésilien pour Bilo. Qui aurait préféré que tu nous parles de Felipe Massa, mais...
De Felipe Massa.
Donc, Shinji, tu choisis la question sur Rubens. Donc, c'est cette question-là à laquelle vous allez devoir répondre. À savoir, en 2006, quelle particularité aérodynamique avait la monoplace de Rubens Barrichello à l'arrivée du Grand Prix de Chine? Pour y répondre, vous devez donc nous envoyer un petit message, soit par le formulaire de contact du site fanf1.com, rubrique plus, il y a contact, vous choisissez le SAV de la F1 comme destinataire, soit directement sur notre adresse savf1@yahoo.fr. Vous n'oubliez bien évidemment pas de nous donner d'abord la bonne réponse, hein. C'est utile, oui. Puisque vous avez remarqué que voilà, on ne retient que les bonnes réponses. Ensuite, vous pensez bien sûr à nous joindre une question pour le Grand Prix de Turquie, avec la réponse si possible pour qu'on puisse savoir à qui accorder la bonne réponse au final. Voilà. Et donc, nous pouvons tout de suite féliciter le vainqueur, et c'est un nouveau vainqueur, Shinji. C'est un nouveau. Alors,
c'est franchement n'importe quoi. Hein. Non, mais il n'y a aucun respect pour les anciens.
Voilà, donc c'est Wonderwall qui l'emporte. Alors qu'est-ce que tu remportes, Wonderwall ? Tu remportes un tout petit ticket avec ton nom dessus que tu verras dans une enveloppe à la fin de saison pour un tirage au sort, pour un cadeau de d'une valeur de 6 euros et quelques, puisque nous avons vendu un troisième guide du SAV. Hein ?
Est-ce qu'on pourrait faire le tournage en intérieur cette
oui,
année ?
On le fera en intérieur, je te dis. Je tiens à ma salle.
C'est une question que je pose maintenant. Allez, on va partir vers la Turquie.
Oui, nous allons pas.
Dans trois semaines. Après, on a quand même eu trois courses en quatre week-ends. Et là, première pause, on va dire, de trois semaines pour revenir en Europe, même si c'est pas l'Europe. Voilà. Alors, quand je dis c'est pas l'Europe, hein, je ne rentre pas dans un débat politique hein, sur la Turquie. Hein. C'est juste que c'est du côté asiatique d'Istanbul. Et il arrête pas de gueuler, mais Bilo, il va devoir bosser.
Oui, c'est vrai. Il va nous trouver sept bonnes ou sept mauvaises raisons d'aller donc.
Ah merde, j'ai pu oublier.
Eh ben, tu te démerdes.
Tu te démerdes.
Non, mais si, j'ai des... bon, par contre, j'ai des deux têtes, donc il va falloir que je les retrouve.
Oh, on est mal barré. Ah, on est mal barré, tu me dis. Alors, tu as choisi quoi ? Cette bonne ou cette mauvaise raison d'aller en Turquie ?
Cette bonne.
Oh. Ils ont pas envie de se fâcher avec Bernie.
Alors, première raison, c'est le retour en Europe. Donc... Avec la pause de trois semaines, les équipes vont arriver avec des modifications et vont peut-être rattraper Red Bull. Deuxième raison.
C'est bien le peut-être.
Deuxième raison, qui est un peu liée avec la première, Vettel n'a jamais gagné en Turquie. Bon, il avait jamais gagné en Australie non plus, mais bon, voilà. Troisième raison, c'est le retour en Europe.
Oui. Et oui. C'est pas la première déjà, ça?
Les écuries vont arriver... Ah non, c'est pas celui-là.
Les écuries vont avec des... arriver avec des nouveautés. Quatrième raison.
C'est le retour en Europe.
N'a jamais gagné. Cinquième raison. C'est le retour en Europe. Donc, Vettel va arriver avec des nouveautés. Hein. Nouveau museau, etc.
Non. Troisième raison. C'est le retour en Europe. Et donc, les horaires sont plus européens.
Ce qui est logique, vu qu'on est en Europe. Que les horaires sont plus européens.
Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se lever à 8h du matin pour regarder une course. Ou les qualifs.
Ah, c'est bon.
Voilà. Hey. Ensuite,
Quatrième raison.
Shinji, tiens les comptes. On l'arnaque pas, Shinji, sur les 7 bonnes ou mauvaises raisons.
Pourtant, je me suis récité toute la journée d'hier et là, je m'en souviens plus. C'est le stress. Ah oui.
Ah.
Donc, quatrième raison, c'est un très beau circuit, la Turquie. Cinquième raison, avec ces grandes courbes rapides, les pneus Pirelli devraient s'user rapidement.
Ouais.
Oui, je parle beaucoup au conditionnel, hein, parce que...
Il est très prudent, Bilo.
Ouais.
Et, la sixième raison...
C'est bon, ça va, Shinji?
Oui, c'est trop bien.
Sixième raison, lors du Grand Prix de Turquie, on sera au mois de mai. Et en mai, le dicton dit, fais ce qui te plaît.
Ah, ça, là, c'est énorme.
Et donc, les commissaires de course pourront disqualifier Sébastien Vettel pour n'importe quelle raison, puisqu'ils pourront faire ce qui leur plaît.
Tu remarques que là, il dit pas le conditionnel, il dit le futur. Là, ça revient, c'est voilà, Vettel devrait gagner, il faudra le disqualifier pour qu'on aille donner ce là.
Et, septième raison, la Turquie, c'est le pays des kebabs. Et c'est bon, les kebabs.
Je crois que c'est une magnifique fin de... C'est une magnifique septième raison, ça.
Ah ouais,
je t'ai gardé pour la fin, celle-là.
C'était cette bonne raison. Voilà.
On va quitter l'Asie et ses horaires asiatiques.
Et nous allons nous diriger donc vers la fin de cette émission.
Oui. Bah, déjà, vos pronos pour la Turquie dans trois semaines. Moi, j'ai envie de dire Vettel.
Ah non, on s'autorise à le
remplir. Mais Lewis a gagné, donc on peut s'autoriser à redonner Vettel. Et moi, je me dis, là, ça va être le retour en Europe. Il faut qu'il mette un coup de burin, là, sur tout le monde. Victoire de Vettel. Histoire de bien montrer que les boss, cette année, c'est eux. Et vous?
Victoire d'Alonso.
Oh.
C'est la Turquie ou c'est jamais. Donc ce sera la dernière fois que je le proteste.
Turquie ou c'est jamais.
Ah, c'est soit la Turquie que je proteste, soit c'est jamais. Voilà. Avec trois semaines là quand même, faut qu'ils arrivent à nous trouver des trucs.
Et toi, Bilo?
Moi, je suis pas comme toi, Shinji. J'ai pas envie de dire Vettel.
C'est ton choix. Donc,
je veux dire Button.
Button. Ah, ah, c'est un beau vainqueur.
Oui.
Il aurait pu gagner l'an dernier sans des consignes d'équipe de McLaren.
Oui.
Le mec, il fout la merde en fin d'émission.
Allez, on arrive à la fin de l'émission.
Oui.
Déjà.
Eh oui, déjà. Merci, Bilo, de nous avoir accompagnés pendant cette émission.
Oui, merci.
Mais de rien. Merci à vous aussi de m'avoir accueilli dans votre émission.
Allez, sur ce, on remercie vous qui nous écoutez. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.
Oui.
Et n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sur FunF1. Et comme d'habitude, on se quitte sur une citation.
Donc oui, on va finir cette émission sur cette petite citation. De circonstances, bien évidemment, puisque vous nous connaissez maintenant. Et la voici, cette citation, enfin ce petit proverbe. Qui économise ses gommes, perd sa place.